Et bonjour à toutes et à tous, ici Wolfen et TheTobyOn du site trailgame.fr, pardon. Déjà
salut.
un petit fail déjà. Salut, comment ça va?
Ça va, tranquille.
Alors, on se retrouve pour un pilote un peu de notre podcast où on va revenir un peu sur des sujets dont on veut parler, qu'on veut aborder. Ça peut être des sujets d'actualité ou des sujets de fond, on verra à l'avenir. Pour l'instant, là, on va parler de sujets d'actualité. Puisqu'on a un beau petit programme qui nous attend. Donc, en premier lieu, moi, je vais vous parler de Final Fantasy VII, le remake là, qui est sorti il y a maintenant une ou deux semaines. Donc, ça dépend quand est-ce que le podcast sortira, vous verrez bien. Ensuite, TobyOn va nous parler d'Animal Crossing.
Petit jeu indépendant.
Le phénomène, c'est ça, Animal Crossing, là, qui a déferlé un peu partout. Et après, on terminera donc sur des petits jeux à côté. Donc, moi, ça sera Resident Evil 3, pardon, de mon côté. Et TobyOn nous parlera de One Piece Pirate Warriors, tout à fait.
Ouais, One Piece Pirate Warriors 4.
Ah, le 4 déjà. Je t'avoue que je ne suis pas très jeu de tirer d'anime. Mais on aura l'occasion d'y revenir après, je pense. Donc, dans un premier temps, on va commencer par une petite musique pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, un petit morceau tiré de l'OST de Final Fantasy VII Remake avant d'en parler. C'est le thème Genova. Et ben on vous laisse tout de suite avec ça. Donc voilà, c'était le morceau Genova de Final Fantasy VII Remake, donc une réorchestration qui était un morceau qui était déjà du coup présent sur le jeu de base quand on affronte Genova. Est-ce que ça t'a hypé un peu, Toby?
Ouais, franchement, c'est incroyable.
globalement, c'est... Ouais, dis-moi.
Moi, j'étais pas très FF, moi, de toute façon.
Ok.
J'ai plus Dragon Quest que FF, mais celui-là, là, rien que cette chanson, c'est de la bombe, ça m'a donné envie de jouer au jeu. Quoi. C'est vraiment la patte Square Enix.
C'est ça, c'est exactement ça. De toute façon, de manière assez globale, l'OST m'a vraiment laissé sur le cul, si je peux pas mettre l'expression. Donc, de toute façon, je vais y revenir parce que ça y est, Final Fantasy VII Remake est sorti après quoi, 5 ans. Il a été annoncé en 2015.
5 ans minimum, ouais.
Il me semble qu'il a été annoncé de manière officielle à l'E3 2015, il y a 5 ans. Il se sera fait attendre et il est enfin là. Donc, tu me disais que tu n'avais pas fait Final Fantasy VII, toi, à la base?
Non, je n'ai pas fait FF7 de base.
Donc, aucune idée.
Tout le monde a ses préférences, moi, je n'ai aucune.
Ok, très bien. Donc, Final Fantasy VII, qui est un jeu qui était sorti du coup initialement sur PS1 en 97. Donc, il s'agit d'un remake aussi bien graphique, hein, donc un remake total à ce niveau-là, que d'un remake scénaristique aussi, parce qu'il y a certains arcs qui ont été ajoutés, des événements qui ont été un peu plus travaillés. Donc,
question à te poser là-dessus. Hein.
Yes, écoute, avec plaisir, j'essaierai d'y répondre. Donc, à la base, Final Fantasy VII, qu'est-ce que c'est? Donc, au niveau du scénario, on est sur un monde un peu steampunk, un peu rétro-futuriste, qui est un peu le cul entre plusieurs chaises. Voilà, donc on va suivre le personnage de Cloud, donc, qui est un mercenaire, tout simplement, ancien soldat, donc membre de la compagnie Shinra, donc, qui est un peu la, l'entreprise hyper puissante dans ce monde-là, qui est donc mercenaire et qui est engagé par le groupe éco-terroriste, donc on a un peu ça, cet aspect aussi terrorisme, Avalanche, du coup, le nom de, du groupuscule, qui bah, va essayer de dégommer la... tête de Shinra, de la Shinra, qui en fait elle pompe ce qu'on appelle l'énergie Mako, donc qui est en fait l'énergie vitale de la planète, qui épuise toutes ses ressources et qui bah, à terme du coup va la détruire. Donc là voilà, l'idée de, du groupe Avalanche, c'est un peu bah, de mettre des bâtons dans les roues à la Shinra pour justement bah, qu'ils arrêtent de pomper cette énergie. Sachant qu'en fait, ils les pompent avec voilà, plusieurs réacteurs qui sont disséminés au, tout autour de la ville de Midgar, donc qui est un peu la, l'hyper, la mégalopole un peu de, du monde, de ce monde-là. Donc en fait, voilà, la première mission, donc on arrive, voilà, sans trop vous en dire, bien sûr, on arrive et en gros, la mission, la première mission, ça va être de faire péter un réacteur. Donc on est vraiment sur du terrorisme un peu énervé, quoi.
Ok, scénaristiquement, si j'ai pas fait les autres FF, je suis pas perdu.
Non, non, bah, la particularité de Final Fantasy, c'est que chaque. Pratiquement chaque épisode est indépendant, au final.
C'est des vénins différents et des...
Oui, c'est des personnages, des univers différents qui répondent pas forcément aux mêmes règles. Tout ça, à part, du coup, bah, pour les... Par exemple, Final Fantasy X-2. Donc là, du coup, bah, c'est assez explicite dans le nom. Ouais, c'est la suite de Final Fantasy X. Et Final Fantasy XIII-2, XIII-3 aussi, qui sont les suites de Final Fantasy XIII. Là, non, non, si t'as fait aucun Final Fantasy, tu peux totalement t'attaquer à Final Fantasy VII. Il y a aucun souci. Il n'y a aucun souci aussi pour que tu puisses le faire, ce remake, si tu n'as pas fait le jeu de base. Il a été pensé, donc
c'est,
du coup, bah, pour remettre
un
peu...
scénario, quoi.
Ouais, alors la trame scénaristique globale reste la même. Les événements que tu vas vivre, les événements principaux restent les mêmes. Il y a certains juste arcs narratifs qui ont été un peu rajoutés, notamment sur certains personnages qui n'étaient pas trop développés à la base, qui le sont un peu plus maintenant. Parce que, autre information importante, si jamais vous n'avez pas du tout suivi le développement de cet épisode, il s'agit que d'une seule partie du jeu de base, puisque ce Final Fantasy VII Remake s'attarde uniquement sur la partie donc, du coup, qui se déroule à Midgar, donc dans cette immense ville.
Justement, tu crois que les polémiques autour de la division épisodique des... du format épisodique pardon, des épisodes, elle vaut le coup d'exister ou pas? Parce que certains disent si on paye 70 boules pour chaque épisode, ça ne va pas le faire.
Alors ouais, donc je peux comprendre du coup bah, les inquiétudes. Alors il faut savoir que du coup, beaucoup de choses ont été ajoutées, quelques lieux que tu visites, beaucoup de quêtes annexes. Donc en fait, en termes de durée de vie et de ce qu'il y a à faire dans le jeu, on est sur quelque chose d'équivalent à un RPG voilà, moderne, assez classique. Il faut savoir que j'ai mis 35 heures à le finir pour ma première run. Là où Midgar à la base dans le jeu d'origine c'était 5-6 heures de gameplay, c'était vraiment le début de l'aventure
et le boulot a été fait quoi. Ce sont pas des quêtes FedEx
alors
comme ça.
Bien sûr il y a quelques-unes là, je pense que tu peux pas trop passer à côté de ce phénomène quand tu fais un RPG, j'ai l'impression maintenant c'est que t'as pas mal de quêtes quand même qui sont pas inintéressantes mais où ça va beaucoup être scénaristiquement qui apportent pas grand chose. C'est vrai, il faut être honnête, à ce niveau-là, il y a pas mal de quêtes où ça va être, voilà, il y a tel monstre qui pose un problème à ce niveau-là, il faut que tu ailles le tuer. Il y a peu de quêtes qui dérogent un peu à cette règle-là. Donc il y a du contenu, il y a de quoi faire au niveau durée de vie, et au niveau de la pertinence du format épisodique, en fait, ça va être difficile de vous répondre sans vous spoiler l'histoire, parce que c'est là où Square Enix, hein, où je les félicite au niveau de ce remake, c'est qu'ils ont pris un énorme risque, finalement. On pourrait croire que là, ce Final Fantasy Remake, c'est pas un risque, mais quand on arrive dans le dernier tunnel du jeu, les dernières heures de jeu, c'est à ce moment-là où il y a pas mal de choses qui changent, pas mal de choses qu'on n'avait pas vécues, donc du coup, de jeu de base qui sont là, et qui, en fait, nous font poser beaucoup de questions sur l'avenir de ce remake. Donc, il y aura bien sûr le format épisodique. Maintenant, il est impossible de dire, et je pense que même Square Enix ne peut pas le dire, sur combien d'épisodes ça va durer.
Mais sûr, il y aura d'autres épisodes.
Il y aura d'autres épisodes, c'est sûr. Par contre, rien ne nous dit, encore à l'heure actuelle, si ça va être exactement le même jeu que de base.
Ouais,
donc ça va être difficile de vous révéler sans spoiler, parce que voilà. Donc pour la petite anecdote, c'est Tetsuya Nomura qui fait le jeu, qui est directeur du jeu. Et voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est celui qui a fait Kingdom Hearts. C'est la même personne. Et on connaît Kingdom Hearts pour son scénario un petit peu complexe, si je peux me permettre. Là, voilà, on est sur quelque chose qui peut partir dans une direction totalement opposée. Donc, à voir où l'avenir nous mènera à ce niveau-là. Mais le fait est que on est quand même sur un jeu qui reste très qualitatif, je trouve. Pour revenir sur quelques éléments, au niveau du gameplay. Donc, du coup, à l'époque,
ouais. Yes, dis-moi. Tu as dit que c'était Nomura, du coup, Kingdom Hearts. Est-ce qu'au niveau des mécaniques de jeu, ça se rapproche d'un Kingdom Hearts ou ça reprend plus FF7?
Ouais. Alors, à l'époque, donc, du coup, Final Fantasy, on n'est pas sans savoir que c'est une série de jeux au tour par tour, des combats tour par tour. Là, on est sur quelque chose de radicalement différent puisqu'on est sur de l'action RPG. Donc, ça se voit que c'est Nomura qui fait le jeu. Il y a beaucoup d'éléments qui sont inspirés de Kingdom Hearts. Et donc là, en fait, tout est vraiment en temps réel, à l'exception du fait qu'ils ont eu une idée de gameplay, c'est de faire un action RPG dynamique, comme vous pouvez retrouver dans Kingdom Hearts, dans, par exemple The Witcher, vraiment avec des combats en temps réel. Mais quand vous appuyez, par exemple, sur la touche croix, pour avoir accès à vos compétences, vos sorts, tout ce qui fait un peu les éléments de gameplay de Final Fantasy, vous mettez en fait le jeu sur pause. Pas vraiment sur pause, en ultra ralenti, on va dire, le jeu se déroule beaucoup moins, enfin l'action se déroule beaucoup moins rapidement. Et donc ça vous laisse un peu le temps, voilà, de vous organiser, de voir un peu où en sont vos persos au niveau HP, niveau MP, qu'est-ce que vous allez faire comme sort. Donc c'est vraiment hyper dynamique, c'est hyper bien pensé, je trouve, parce que voilà, ça permet de rallier un peu des personnes qui sont hyper réfractaires à ce passage justement à l'action RPG. Vous avez toujours des éléments qui rappellent un peu le tour par tour, qui vous rappellent un peu ce côté stratégique qu'avait Final Fantasy VII à la base.
Et du coup, c'est accessible ou c'est exigeant ?
Ça dépend des personnes. Alors moi, j'avoue que j'ai pas du tout galéré à m'approprier le système de jeu. Il faut dire après que je suis un grand, grand fan de Kingdom Hearts. Donc, c'est vraiment un système de jeu qui me parle, quoi. Après, je sais que voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques personnes à côté qui ont eu un peu plus de mal, notamment sur les boss. Voilà, moi, il faut savoir que j'ai fini le jeu en mourant qu'une seule fois. Là où j'ai d'autres personnes qui sont mortes beaucoup plus de fois et qui ont eu un peu plus de mal à appréhender le système de jeu. Au début, c'est pas très naturel en fait de mettre l'action en pause. Enfin, ça peut paraître bizarre comme ça de mettre l'action en pause, le temps de faire ses trucs dans ses menus, tout ça, et après de reprendre l'action en fait une fois que tout est fait. Mais moi, ça m'a paru, écoute, au début, ça bouleverse un peu nos habitudes, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans un FF. Mais après quelques heures de jeu, franchement, on s'y fait assez rapidement et tout devient assez fluide. Parce qu'il faut savoir que du coup, on incarne Cloud, mais aussi d'autres personnages. Donc du coup, pendant le combat, en fait, vous allez switcher entre les personnages pour les faire attaquer avec leur attaque de base, en fait, qui se résume à spammer le bouton carré. Et après, donc du coup, il y a le système d'ATB, en fait. Au fur et à mesure que vous tapez vos ennemis avec des attaques de base, ou que le temps passe, vous chargez des barres d'ATB, et par exemple, une barre vous donne accès à une compétence que vous pouvez activer ou un sort que vous pouvez lancer. Donc vous en avez deux maximum, et si vous les chargez tous les deux, vous pouvez soit lancer des sorts plus puissants qui requièrent d'avoir deux barres d'ATB, soit un sort et une compétence, par exemple, qui requiert qu'une seule barre d'ATB. Donc je ne sais pas si c'est très clair, j'espère que ça l'est.
C'est un peu clair, mais c'est un peu fouillis tant qu'on n'a pas d'action devant nous.
Ouais, voilà, je pense. Après, je pense qu'au niveau des trailers, tout ça, des bandes annonces, si vous regardez un peu à droite à gauche, ça prendra un peu plus de sens.
Au final, la prise en main est facile. Une fois que tu as passé une heure, tu sais jouer, quoi.
Oui, franchement, voilà, au début, en fait, l'attaque du premier réacteur au niveau du scénario fait office de gros tuto, en fait. Ça dure, si vous voulez, en fait, il y a encore la démo qui est disponible, je pense, sur le PlayStation Store, que vous pouvez essayer. C'est 45 minutes, une heure de gameplay. C'est le début vraiment de l'aventure. Tout à fait, et ça fait office de gros tuto. Donc vous avez quelques pop-up de dialogue qui apparaissent pour vous expliquer un peu tout ça. Et puis donc du coup aussi, en termes de gameplay, c'est le retour des Materia. Materia qui était un peu le système de jeu principal de ce Final Fantasy, qui est propre à ce Final Fantasy, qui a en fait des sphères de magie, en fait, des sphères magiques que vous greffez soit à vos armes, soit à vos différents objets d'équipement, pour vous donner des compétences. En fait, si vous prenez une materia de feu et que vous la mettez sur votre épée, vous allez avoir la compétence feu qui va être disponible, par exemple. Et après, vous avez d'autres materia qui vous permettent en fait de faire des combinaisons. Par exemple, si vous mettez une materia qui vous permet qui vous donne accès, par exemple, à des attaques magiques, des attaques physiques magiques, je parle, avec vos attaques de base, et que vous l'associez avec une materia de feu, vous allez faire des attaques basiques de feu, en fait.
C'est des repères au niveau des mécaniques que seront les joueurs, quoi.
Oui, a priori, si vous avez fait le jeu de... Bien sûr, voilà, après ça reste des éléments de RPG assez classiques, hein, feu, foudre, soin, glace, vent. Et après, les sorts de base comme qui permettent d'empoisonner les ennemis, de les ralentir, de mettre des barrières, enfin vraiment quelque chose d'RPG assez classique. Voilà, au niveau du gameplay, on fait un peu le tour. Il y a aussi vite fait un petit système d'amélioration d'armes qui n'était pas là à la base, qu'ils ont rajouté là, où en fait vous allez pouvoir attribuer des... Ouais, ça donne un peu plus de profondeur, mais je trouve ça un peu surfait. Enfin, c'est pas nécessaire, honnêtement, parce que ça te donne l'impression que tu vas pouvoir spécialiser tes persos. Genre, dire tel perso va être le magicien, tel perso va être l'attaquant de physique. Mais au final, non, ça change pas grand-chose, et chaque perso est ce qu'il doit être. Par exemple, si vous jouez Aerys, voilà, c'est de base, c'est censé être la magicienne, et ça restera la magicienne. À pouvoir en faire une attaque, une personne qui attaque avec des attaques physiques, comme le fait Cloud, par exemple. Et voilà, donc ça se débloque avec des points de compétences que vous gagnez à chaque niveau, en fait, et que vous pouvez attribuer à votre arme. Je pense qu'on a fait le tour un peu au niveau du gameplay. Les combats de base sont pas les plus intéressants, je vais pas vous mentir. En mode normal, du moins, c'est après on débloque le mode difficile qui augmente nettement la difficulté. Mais là où...
Tu as recommencé, tu l'as fini en difficile ?
Je l'ai fini en mode normal, là je suis sur ma seconde run en mode difficile. Et en fait, le gros point qui change, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser les objets en mode difficile. À aucun moment, on ne peut utiliser d'objets. On doit tout faire avec sa magie, donc pour se remettre de la vie, il faut le faire avec ses points de magie. Mais le fait est qu'en mode normal, vous avez des éthers qu'on appelle, donc des objets pour vous remettre des points de magie. Et là, en fait, du coup, vous ne pouvez plus utiliser ces objets pour vous remettre des points de magie. Donc, le seul moyen de retrouver des points de magie, c'est en cassant des caisses qui sont un peu disséminées aux quatre coins de la map. Enfin, au fil de l'aventure, parce que c'est assez linéaire. Ça sera un autre point sur lequel il faudra revenir en vitesse. Et en fait, c'est ça la difficulté, ça va être de bien gérer ses points de magie, de ne pas les utiliser n'importe comment, parce que le seul moyen de vous les remettre, c'est en cassant ses caisses et entre chaque chapitre. Et certaines matérias, certaines compétences qui vous permettent, par exemple pour Aerys, de vous remettre un peu des points de magie au fur et à mesure que le temps passe. Mais globalement, voilà, il faut vraiment être très rigoureux sur l'utilisation de ses MP. C'est sur tout ça et la difficulté, bien sûr, globale du jeu qui change entre le mode difficile et le mode normal.
Ok, ouais, du coup, ça apporte une bonne composante de gestion.
Ouais, ça rend le tout beaucoup plus stratégique. Quoi. Ouais, c'est quand même une grosse contrainte, ça rend le jeu beaucoup beaucoup plus stratégique. Et là, bah, je viens de faire un combat de boss qui est assez connu là, j'ai oublié son nom, mais ouais, c'était vraiment là où en mode normal, voilà, c'est un peu du bourrinage, pas du bourrinage, mais t'as quand même des systèmes de voilà où il faut utiliser bien sûr la bonne magie contre le bon perso. Mais là, c'est vraiment nécessaire de le faire. Tu peux pas battre le boss si tu ne le fais pas. Et c'est grisant en fait de passer entre chaque perso, c'est vraiment dynamique, tu passes entre chaque perso, tu utilises les compétences, les sorts de chaque perso, chacun a vraiment sa spécificité, donc vraiment ça apporte vraiment le mode hard, je trouve, apporte vraiment
tu gardes le kiff. Plus.
Tu gardes vraiment le kiff, ouais, donc là j'ai vraiment hâte et j'appréhende en fait de recroiser certains boss, qui déjà en mode normal n'étaient pas forcément les plus simples, là je pense qu'en mode hard ça va être vraiment compliqué.
Et du coup dans le mode hard, les boss ils deviennent des gros sacs à PV ou ils gardent les mêmes caractéristiques?
Les boss sont un peu des sacs à PV. Il faut quand même y aller pour les tomber. Donc l'effet en mode hard, là, pour les boss, les premiers boss, ça s'est pas trop ressenti. Mais pour les boss un peu plus loin dans l'aventure, je pense que ça va être vraiment des gros sacs à PV. Donc ça va engendrer des combats de boss qui vont durer bien 10, 15, 20 minutes, je pense.
Ouais, c'est pas rien. Ouais.
Voilà, en termes de rapide passage sur l'OST.
À chaque fois que j'entends un jeu Square Enix, on reconnaît que c'est du Square Enix, quoi. Ça, à chaque fois, c'est des grandes symphonies, des gros thèmes. Tu sais que tu vas kiffer l'OST, quoi.
Nier ouais, alors c'est clair.
Final Fantasy et autres, c'est toujours de la bombe.
Ouais, donc là, on est toujours sur le même niveau de qualité, hein, je vais pas te mentir. Je prends un plaisir ouf, là, encore, à réécouter les musiques de Final Fantasy. Mais là, je trouve qu'ils sont allés encore plus loin. Hein. Je pense vraiment que c'est, depuis Nier Automata, entre guillemets, j'ai jamais entendu une musique aussi ouf. Enfin, après, c'est subjectif, hein, tout ça. Mais même au niveau de comment elle est utilisée en jeu, enfin, vraiment, tout est réglé au millimètre près, au poil près. T'as certains thèmes qui reviennent, mais qui sont mélangés à d'autres thèmes. Quand il y a, par exemple, des personnages de la Shinra qui entrent en scène, qui parlent, tu vas avoir une petite mélodie de la mélodie la plus connue, la plus typique de la Shinra, enfin, qui est associée à cette organisation, qui va se faire entendre, mais de manière discrète, en fond, qui va te faire un rappel un peu sonore. Et vraiment, en termes de vraiment une utilité au niveau narration, qui est vraiment assez ouf, je trouve. Et même au niveau de l'action pendant les combats, en fait, là, je vous ai mis qu'un extrait du morceau Genova, mais c'est le morceau pendant la troisième phase. Et en fait, il faut dire que le morceau de base dure 9 minutes, et que pendant ces 9 minutes, tout le morceau évolue, en fait. On a vraiment une première phase pendant la première partie du combat qui est un peu plus symphonique. Après, on va avoir une deuxième phase qui change un peu, qui modifie quelque chose. Et après, la troisième phase qui explose vraiment là, le combat où on est au climax du combat, quoi, au point culminant. Et là, ça, vraiment, ça part en quelque chose d'incroyable, quoi. Enfin, vraiment, moi, je suis tombé amoureux de cette OST. Je pense que je vais l'écouter pendant encore un long moment, sans souci.
Donc, on a consacré quelques articles sur les sons.
Ouais, il y a moyen que je fasse quelques VGM aussi, mais là, vraiment, avec les OST de ce jeu, il y a moyen que je fasse des VGM pendant encore quelques années, quoi. Hein, avec ce jeu.
Chaque fois, c'est très, très fort avec Square Enix parce que la bande-son, elle accompagne toujours merveilleusement la mise en scène et le gameplay, quoi. Et j'ai découvert, enfin, on a surtout vu ça, comme tu as dit, à Nier Automata où c'était incroyable.
Ouais. Ah oui, non, mais c'est clair. Hein.
Si tu l'associes à quelque chose, à une musique. Et
ouais, tu vas l'associer à un moment de jeu, un moment que tu as vécu, tu sais que tu as la musique qui est associée. Et vraiment, c'est Square Enix, à ce niveau-là, ont rarement déçu. Ils ont déçu sur d'autres points, mais sur les musiques, ils ont rarement déçu.
Ouais, ça accompagne le gros coup de cœur, la musique.
Ah oui, non, mais c'est clair que là, bah, ça participe à faire de. Que j'ai beaucoup apprécié ce remake. Donc bah, je l'encense depuis tout à l'heure, donc il est quand même quelques temps de remettre un peu les choses à leur place. Donc je vais vite fait vous parler des petits défauts que j'ai trouvés à ce FF.
Ah, parce qu'il y en a.
Il y en a quand même, bien sûr, il y en a. Il y en a qui sont gros, d'ailleurs, je trouve. Mais il y en a auxquels on se doutait, en fait. On les attendait. Hein.
Tu vas pas parler de la coiffure de Cloud hein, quand tu parles des défauts.
Non, bien sûr, mais elle est parfaite, cette coiffure, Toby. Moi, je rêve d'avoir la même.
Ouais, ça doit être dispo. Hein.
C'est clair. Du coup, ouais, bah, le gros problème, sans surprise, en fait, c'est la structure du jeu. C'est la structure du jeu. On reprend la partie de Midgar, comme je vous le disais, sauf que la partie de Midgar, c'est la partie la plus couloir du FF7 de base. Et bah, là, on n'y coupe pas, quoi. C'est du couloir. C'est du couloir pendant toute l'aventure. Voilà, des fois, ils se camouflent bien. On ne voit pas trop. Et quelquefois, c'est vraiment plus long. Il y a vraiment des phases qui sont vraiment assez longues, qui ont été rallongées. Énormément et ça se sent, et c'est vraiment un peu pesant à certains moments parce que c'est et juste. Voilà,
rassure-moi, ça t'a pas rappelé un certain chapitre de Final Fantasy XV?
Alors, si, bien sûr, ça rappelle pas les meilleures heures de Final Fantasy, hein, forcément. Donc, ça rappelle bien sûr la fin de Final Fantasy XV qui était déjà comme ça et qui avait été. Je pense que beaucoup de monde en a entendu parler de ces derniers tiers de jeu de FF15 qui était assez terrible.
Après pour voir s'ils avaient arrangé. Mais...
Yes, alors j'étais retourné dessus faire les chapitres bis, comme ils avaient appelé ça à l'époque, où c'était en fait voilà, au début du chapitre tu pouvais arriver et choisir de faire le chapitre bis où tu avais un peu un autre déroulement des événements. Enfin voilà, enfin pour moi c'était du mettre du scotch sur des problèmes fondamentaux du jeu. Ouais. Ça changeait rien au problème. Là, c'est moins grave, quand même, je vais pas te mentir, il y a quand même des phases. Une grande majorité des phases sont quand même assez divertissantes. Hein. C'est pas forcément parce que c'est du couloir que c'est une mauvaise chose. Il y a des couloirs qui sont très bien faits. Là, il y a quelques quand même longueurs, je vais pas vous mentir. Et voilà, et bien sûr, une world map, un monde ouvert, bah, ça manque un petit peu dans un FF. C'est pas non plus, voilà, je vais pas lui jeter la pierre parce que bah, le matériau de base était comme ça, finalement. Là, il y a quand même quelques... Voilà, donc ça se passe dans des bidonvilles, donc il y a quelques bidonvilles qui sont un peu plus grands, voilà, il y a quelques endroits qui vont nous amener à des quêtes annexes, et voilà, mais globalement, ça reste du couloir. Il n'y a pas à dire, donc voilà, bah, ça plaira, ça en décevra certains, là, qui porteront finalement un peu d'intérêt au fait que ce soit des couloirs. Moi, ça ne m'a pas...
On m'a parlé d'une scène mythique dans Final Fantasy VII, une histoire d'escalier de je sais pas combien de milliers.
Ouais, là, ouais.
Moi, je connais pas.
Alors en fait, c'est à la tour Shinra quand tu arrives à la fin de Midgar où tu vas, sans vous spoiler, tu vas faire quelque chose dans la tour Shinra. Et en fait, le quelque chose que tu dois faire se trouve au niveau 69 de la tour. Donc là, tu as, enfin 69, je dis 69 parce que je suis un pervers peut-être, mais peut-être que c'est pas 69 et je suis un petit peu moins, c'est entre 50 et 60 quoi. Et en fait, tu avais deux choix à l'époque, tu avais soit le choix de prendre les escaliers, soit le choix de prendre l'ascenseur. Et là, donc, tu as encore ce choix, sauf que à l'époque, le choix des escaliers, voilà, bon, c'était marrant parce que voilà, tu te tapais 50 étages à monter en escalier, mais il n'y avait pas spécialement, voilà, c'était vite fait dit que bah, c'était, pour les persos, c'était un petit peu chiant de se taper de ces étages. Mais là, ils ont vraiment poussé la mise en scène et poussé le truc à fond. Et c'est vraiment une scène vraiment qui m'a fait beaucoup rire. Parce que tu vois vraiment les personnages qui sont au bout de leur vie de monter 50 étages à pied. Notamment Barrette, hein, qui sert un peu.
Mais il marche seulement, tu peux pas courir ni sauter.
Alors au début, tu cours, mais au final, du coup, au fur et à mesure, il se fatigue. Donc au fur et à mesure, il commence à marcher, à monter les escaliers en marchant. Donc c'est une phase, ouais, bon, pas intéressante en termes de gameplay, mais qui est assez marrante et qui dure bien une bonne dizaine de minutes quand même. Hein, je pense à monter les escaliers. C'est un bel hommage, c'est assez marrant à ce niveau-là. Donc voilà, donc une structure couloir au niveau des petits soucis, un gros problème de texture. Par contre, ça, j'ai encore du mal à me l'expliquer. Et c'est là que je trouve ça bizarre parce que le jeu, je trouve le jeu beau en fait de base, mais finalement, je le trouve aussi extrêmement laid. Et il y a quand même, enfin extrêmement laid, non j'abuse, mais il y a des textures en fait, je comprends pas ce qu'ils ont fait. Je comprends pas ça, je comprends pas si c'est un problème d'affichage, que les textures, voilà, il y a peut-être qu'ils vont sortir un patch pour les améliorer, ou si c'est des textures qui de base qui sont pas foulées à détailler de coup détaillé. Mais vraiment, il y a certaines textures, enfin vraiment, j'ai envoyé une photo à mon frère à ce niveau-là, parce qu'il faisait le jeu en même temps que moi, et d'un pneu, un truc tout bête, un pneu, quoi, qui était là en arrière-plan de quand je parlais à un PNJ, et dont la texture ne s'affichait pas. Mais c'est même pas qu'elle mettait du temps à s'afficher, c'est qu'elle ne s'affichait pas. Et le pneu, c'était juste voilà, une forme avec. C'est comme si j'avais pris sur Photoshop une forme et j'avais mis un pot de peinture bleu dessus, parce que le pneu était bleu. Et vraiment, c'était vraiment, c'est horrible. Et t'as beaucoup de textures comme ça qui ne pop pas ou qui apparaissent dans des résolutions vraiment vraiment basses, quoi. Donc c'est assez.
Du coup, tu te demandes si c'est tellement gros que c'est pas un choix, quoi.
Ouais, non, mais franchement, ouais, mais ça m'étonnerait que Square Enix ait fait un choix comme ça, quoi. Alors j'espère au fond de moi que ce soit un problème qui va être patché. Mais comme je vois toujours pas de patch passé alors que ça fait une semaine que le jeu est sorti, je commence à me poser des questions. Alors le jeu, je disais que c'était effroyable, mais le jeu reste très beau quand même, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais franchement, quand on plisse les yeux et qu'on commence à s'attarder un peu sur les détails, ça fait mal. Sachant que le jeu a une mise en scène, franchement, qui est absolument oufissime. Bah, encore une fois, Square Enix est fort là-dessus, hein, avec des cinématiques qui défoncent, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, pendant les cinématiques, pas de souci de texture. Mais en jeu, en temps réel, un peu plus de soucis à ce niveau-là, quoi. Et bah voilà, écoute, je pense avoir fait un peu le tour de Final Fantasy VII Remake. Si je dois faire vite fait une petite conclusion, bah moi je vous le recommande. Je vous le recommande parce que finalement c'est un jeu qui a sa durée de vie honnête, une bonne trentaine d'heures de jeu. Voilà, c'est une histoire vraiment ouf. Alors certes, bah, qui est ouverte sur la fin et qui ne se termine pas, qui termine un arc narratif, mais pas forcément une histoire complète. Donc ça peut être frustrant pour certaines personnes si vous ne connaissez pas la suite. Mais bon, même nous, finalement, on est plus sûr de la connaître avec ce qui se passe à la fin, donc on est impatient de voir la suite. Je trouve que c'est quand même une belle réussite de la part de Square Enix, pas parfaite du coup, mais le pari a été pris, le pari est pour moi plutôt gagné, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les prochains épisodes.
Tu recommandes à tout le monde, autant à ceux qui n'ont pas fait FF7 que ceux qui ont fait FF7, quoi.
Bah, je pense que même ceux qui n'ont pas fait FF7 vont découvrir FF7 comme nous on aurait rêvé de le découvrir en fait à l'époque, en termes de mise en scène, et peut-être pas de gameplay parce que ça c'est subjectif, mais en termes de mise en scène et scénaristiquement, FF7 c'est un jeu qui avait eu beaucoup de problèmes à sa sortie, pas de traduction, avec des trucs qui rendaient pas forcément hommage à ce que les personnages disaient ou ressentaient à l'époque, enfin, de base, et là vraiment ça file droit au niveau scénaristiquement, ça file droit, y a aucun souci, les émotions sont décuplées, enfin, quand tu fais des scènes que tu avais fait à l'époque, même si tu les connaissais déjà, tu ressens des trucs, quoi, vraiment. Ouais, à ce niveau-là, ouais.
Nostalgie et retour, tu gardes la même émotion, quoi.
Ouais, tu gardes la même émotion, et puis même elle est décuplée, quoi, au final. Et c'est ça qui est cool, au final. Et puis, t'as quelques surprises aussi, donc ça, c'est plutôt cool pour les personnes qui ont déjà fait le jeu, donc je le recommande vraiment, ouais, pour tout le monde, en fait, que du moment que, voilà, que le pitch vous plaît, que le gameplay vous attire.
Du coup, un grand oui.
Un grand oui. Ouais, un grand oui, pour le coup. Et celui-là, je sais que je le regretterai pas, de grand oui. Parce que j'ai regretté un grand oui, un peu rapide peut-être, ouais, pour Final Fantasy XV, où maintenant bah, j'aimais beaucoup plus de réserves. Là, je sais que.
J'avais apprécié beaucoup des DLC, surtout le dernier FF15.
Oui, j'avais apprécié quelques DLC, ouais, bah, surtout deux, après j'en ai trouvé. Enfin, l'avant-dernier, parce qu'il y en avait un qui était sorti depuis, que j'ai détesté. Donc, ouais, des DLC, j'en avais kiffé 2 sur 4, quoi. Donc, ce qui est bien, mais pas top. Mais,
comme FF15.
Mais non, là, FF7. FF7 redonne vraiment l'amour que j'avais pour cette licence qui s'était un peu perdue avec FF15, notamment la communication qui avait été faite autour du jeu, qui m'avait dégoûté. Là, vraiment, j'ai retrouvé mon FF avec les émotions qui me procurent d'habitude.
Et bah voilà, une belle conclusion au niveau.
Un peu longué. Voilà, j'ai été servi. Et donc, du coup, apparemment, ça n'a pas été la seule grosse sortie du coup de ces dernières semaines.
Ah bah non. Ah bah là, on peut parler à un autre genre, mais totalement différent.
C'est Animal Crossing.
Du coup, voilà, moi je vais vous parler d'Animal Crossing, hein, il est annoncé dans le sommaire. Et Il a cependant un point commun avec Final Fantasy VII Remake, c'est qu'il est très attendu par sa communauté. C'est,
une communauté ouais, qui sait se faire entendre hein, sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter.
Ah, mais, tous les jours, je ne sais pas toi, mais tous les jours, je vois un post Animal Crossing.
Au moins.
Tout le monde joue Animal Crossing. Sauf toi.
Sauf moi, c'est ça. J'étais occupé. Peut-être à l'avenir, qui sait.
Le dernier vrai Animal Crossing qui était sorti, je crois que c'était en 2013, c'était New Leaf. Après, ils ont fait des portages Wii U et tout, mais bon.
Ok, sur quelle console du coup? Wii.
Ils ont fait un portage sur Wii, je crois.
Ok, et à la base, c'était sur GameCube, c'est ça?
Et après, non, le tout premier, en Occident, le tout premier est sorti sur GameCube.
Ok, d'accord.
Et, du coup, avant Horizon, New Horizon, il y avait en 2013, et ensuite, ils ont fait des portages sur Wii U, si je dis pas des bêtises, excusez-moi les fans. Pourtant, ils ont eu droit à un jeu mobile, Animal Crossing Pocket Camp. C'était c'était format mobile, hein, c'était moyen, mais ça contentait les fans. Et puis il y en a, ils s'amusaient à faire des prisons et à enfermer des PNJ.
Ouais, j'avais vu ça, cette histoire de prison sur le jeu mobile.
Voilà, là, on est 2020 et ça faisait des années qu'ils n'avaient pas eu. Du coup, quand la Nintendo Switch est sortie. Mm-hmm. Les fans attendaient tous quand est-ce que sort Animal Crossing. Ils demandaient tous les ans sur Twitter et il a fallu quand même attendre 3 ans pour qu'ils sortent un Animal Crossing.
Ouais.
Et du coup, là, c'est simplement la folie parce que je pense que personne ne s'attendait à un tel phénomène.
Ah, c'est vraiment, il y a vraiment le phénomène Animal Crossing. C'est même moi qui est extérieur au truc ou quoi, je le vis alors que vraiment tout mon entourage joue Animal Crossing.
Ah, mais je crois que c'est lié aussi au support. C'est qu'il sort sur la Nintendo Switch et.
Oui.
Et tout le monde est en kiff sur la Nintendo Switch. Quoi. C'est-à-dire que c'est juste une... Franchement, il n'y a rien de révolutionnaire à la console, mais tout le monde veut l'avoir.
C'est une console
portable, comme aurait pu faire Sony avec la PS Vita, mais bon, ils l'ont abandonné.
C'est ça.
Et comme la 3DS qui était dépassée niveau graphique, du coup.
Oui, donc...
La Switch, là, c'est nickel, c'est un phénomène. Et la plus grande victoire de Nintendo pour Animal Crossing, c'est justement un jeu qui s'adressait à sa communauté. Bah, en fait, tout le monde y joue, même ceux qui n'ont jamais fait Animal Crossing. Quoi.
Ouais, j'ai l'impression vraiment ça a rameuté des joueurs qui n'en avaient rien à faire d'Animal Crossing avant. Quoi.
Mais carrément, hein, même moi, Animal Crossing, j'avais entendu parler, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressé. Et là, en fait,
ok.
Tout le marketing et tout, il m'a donné envie. J'ai même failli faire le test. Je me dis, vas-y, Soren, tu le fais parce que j'ai pas envie de rusher. Sauf que ouais. J'y joue tous les jours. Tous les matins, je joue à Animal Crossing.
Mais du coup, j'ai une question pour moi qui suis profane. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est le principe en fait? J'arrive pas à comprendre
le
principe. C'est quoi l'objectif en fait? Qu'est-ce que tu y fais dans Animal Crossing? Vraiment, hein, je.
Bah, franchement, c'est simple. Arrive sur une île, t'as un tanuki, tu connais les petits
animaux? Oui, l'espèce d'animaux, ouais. Okay.
C'est ça, très connu au Japon, il y a même eu un film Ghibli dessus.
Ah oui, ah, d'accord, ok, je pensais.
Qui est sur Netflix en ce moment, bon, okay. C'est très vieillot, c'est pas très Ghibli d'ailleurs comme animation, ça m'a un peu déboussolé. Mais c'est un tanuki qui t'invite à venir sur son île, enfin sur une île, et en gros, tu vas fonder ta civilisation, quoi. Enfin, tu vas animer ton île. Alors, par contre, tout est payant.
D'accord, ok.
Alors ça, c'est le côté le plus chiant, c'est que tu construis, mais tu payes pour construire. En gros, tu fais tout et tu payes pour tout.
Ok.
Et du coup, contrairement aux Sims, où aux Sims, on va te donner tous les outils. Ici, on te donne aucun outil, il va falloir les payer ou les chercher toi-même. Quoi. On te donne aucun outil pour faire ton aide. Du coup, tu vas devoir crafter ta machette, tu vas devoir crafter ta pelle.
Okay.
Tu vas devoir crafter tes filets. C'est simple, mais en fait, tu fais des petites actions.
D'accord.
Qui t'amène à un grand projet.
Ok, et donc du coup, je me pose la question, cette île, elle est à toi du coup, ou c'est toute l'île est à toi, ou vraiment tu as un petit morceau de terre sur cette île, et voilà, tu vas faire ton truc, et d'autres gens vont faire leur vie sur l'île.
Toute l'île est à toi. En fait,
toute l'île est à toi.
Tu démarres sur une île, il y a plusieurs zones, toutes ne sont pas accessibles au début.
D'accord.
C'est-à-dire que tu vas choisir entre 4 ou 6 maps, je crois, et tu choisis au début, elle est délimitée par des courants d'eau.
Et,
et c'est bâtard parce qu'au début tu peux pas traverser les courants d'eau, il te faut une perche. Alors va falloir crafter, faire des missions pour Tom Nook pour qu'il te donne les bons plans, les bons outils. Tu as la perche, tu continues, il te faut une échelle pour aller sur encore un endroit reculé qui est en hauteur. Rebelote, tu dois crafter, payer. Ensuite, je t'ai pas dit, mais tu démarres avec une tente. En fait, Tom Nook, il te donne une tente. Tom Nook, c'est la mère qui te donne tout. Hein. Il te donne une tente. Tu commences une tente. Avec une tente qui est sur limite 4 mètres carrés. Enfin, 4 je ne sais même pas si c'est en mètres, là-bas. Tu ne peux rien mettre dedans, tu ne peux pas stocker d'objets. Du coup, tu te retrouves avec 10 objets sur toi, alors que pour faire des thunes, il t'en faut 30, quoi.
Okay.
C'est vachement chiant parce que c'est vraiment il est construit comme un jeu mobile ce jeu.
C'est... D'accord, ok. Est-ce que c'est une bonne chose du coup?
Des trucs. Ah bah en fait non. ça crée de la frustration, sauf que tu acceptes ta frustration.
D'accord.
Et franchement, la frustration, tu l'accumules, mais tu t'énerves même pas contre le jeu, tu es tranquille sur une île. Tu l'as fait à ton image, tu l'as fait okay. comme tu veux.
Sans
tu
pression, as... sans, bah ouais, sans ennemis, sans. Pas de combat, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... y a rien du
c'est tout. Peaceful.
Non, tu fais juste... En fait, le jeu, c'est récolter des ressources, construire. Et je pense que le gros point fort, justement, de ce jeu, c'est l'aspect communautaire. C'est en fait, plus D'accord. il y a de monde qui y joue, plus tu vas avoir envie d'y jouer. Et là où Nintendo était très fort, c'est que tu as besoin des autres pour avancer. C'est... en fait, il...
Par quelle mécanique, quoi
même... Ouais, dans les mécaniques, tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Toi, tu vas commencer...
D'accord.
Où tu as des oranges, et mais tu n'as pas de coco, ni de pêche, ni de pomme, ni de poire. Mais ton voisin de gauche, ou ton frère, hein, si l'Animal Crossing, il va penser qu'il y a lui, des pommes. Et en fait, il faut de tous les fruits pour faire quoi.
Et donc, du coup, comment ça se passe dans le jeu, du coup? Tu vois l'île de ton...
T'as une petite vue panoramique et t'avances un peu partout. T'as 3 degrés de panoramique, de caméra panoramique, et t'avances. T'avances pas en plus, hein. Tu cours.
D'accord.
Il y a des temps de chargement vachement moisis, parce qu'en fait, pour aller d'une pièce à une autre, t'as un petit temps de chargement, tu dis bordel, si t'as oublié quelque chose, tu vas trop
Ah ouais, tu vas faire attention, quoi.
Mais du coup, c'est vachement entraînant, parce qu'au final, tu commences avec une tente, tu poursuis, t'as une maison. Une fois que tu as bien sûr, ah oui, une fois que tu as payé ton crédit à Tom Nook, parce qu'en fait, la moitié de ton jeu, ça va être remboursé Tom Nook.
D'accord, ok.
3/4 du jeu, tu commences avec un crédit de 5 en miles, une deuxième monnaie de Tom Nook, et après, tu vas payer en clochette, qui est la monnaie principale du jeu. Tu vas payer pour une pièce supplémentaire, tu vas payer pour encore un étage, un sous-sol.
Ah là, le capitalisme, hein.
Ah, mais c'est Tom Nook, le capitaliste. Tu commences à 180 000, je crois que son dernier crédit est à 2 millions. Et à moins d'avoir des astuces, des petits cheats, quelqu'un qui te donne des couronnes pour que tu les revendes, parce qu'ils ont été chanceux, les premiers joueurs, il y a eu un glitch à la sortie du jeu qui te permettait de copier par une simple manip des objets. Du coup, ils ont copié des objets qui rapportent gros, quoi. Que tu peux revendre à 500 000.
Ouais, donc il y a vraiment un système de marchandage, quoi, de vente.
Et un gros système de vente, et le plus drôle, c'est, franchement, tu as dû en entendre parler sur les réseaux. Le plus drôle, c'est le cours du navet.
Ouais, j'ai vu passer ça, j'ai pas compris, je t'avoue. C'est quoi? C'est la bourse du navet, en fait? C'est comme Wall Street, c'est ça?
C'est Wall Street du navet.
D'accord, ok.
Tous les dimanches, tu achètes tes navets.
Ok.
Tu peux les acheter à 90 ou 120, 140 selon. Selon le PNJ, je ne sais plus comment il s'appelle, qui te vend les navets. Et tu les achètes par lot de 10. Et après, tu as une semaine pour les revendre à un fort taux.
D'accord. Et ce taux évolue tous les jours ou...
Oui, il évolue tous les jours. Moi, par exemple, cette semaine, j'avais que des taux moisis. C'est-à-dire que j'ai acheté mes navets 117. Moi, mon objectif, c'est au moins de les vendre à 300 minimum.
Okay.
Sauf que c'est rare. C'est très rare. Et du coup, j'étais jeudi, je ne sais plus. Je voyais au cours du navet 77, 67, 45. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'il y a notre ami, notre collègue Flavien qui est revenu et qui nous a dit « Bon, les gars, ici, vous pouvez vendre à 450. » Et là, du coup, tu t'es rué et pour des navets que j'ai acheté 300 000, bah, je les ai revendus 2 millions. Quoi.
D'accord. Okay.
Non, du coup, c'est marrant, mais c'est quand même dingue parce que tu vas sur des forums de groupes Facebook ou de Discord, tu as un vrai marchandage de navets, quoi. C'est tu veux, j'ai un taux à 400, tu veux en profiter, donne-moi 1 million et puis tu peux entrer. Donne-moi une pépite d'or et je te donne ça. En fait, c'est l'aspect communautaire. T'as besoin de l'autre en fait. Pour presque toutes tes mécaniques, tout le monde n'a pas les mêmes vêtements dans sa boutique de vêtements. Tout le monde n'a pas pas les mêmes.
Mais du coup, je me demande comment c'est, en fait, du coup, tu ajoutes tes amis sur la Switch pour les avoir dans Animal Crossing, c'est ça?
C'est ça. Et ensuite, après, tu dois entrer un code ami. Du coup, tu entres ton code.
Et après, comment ça se passe, du coup, en fait, tu vas sur, ça t'amène sur l'île de ton pote?
Une fois que tu as un ami, tu as deux choix. Ouais. Soit tu ouvres t'as un aéroport sur des. Du coup, soit tu ouvres des portes pour. Soit tu ouvres des portes pour inviter tous tes amis, soit tu n'as pas envie de voir la gueule de tout le monde, tu fais par dodo code. En gros, Nintendo te met un code à 5 chiffres, ou plutôt à 5 caractères. Et, du coup, tu donnes à la personne que tu veux inviter et ils entrent.
D'accord, donc cette personne vient sur. Vient vraiment sur ton île.
La personne vient sur ton île, elle a accès à toutes les îles, sauf que si tu as mis des barrières. Moi, je sais par exemple, aujourd'hui, j'étais sur une île. Il a créé un motif par terre, paillasson, ne prenez pas mes fleurs, ne coupez pas mes arbres. Et j'ai vu qu'ils avaient protégé la hauteur. Il a fait son île pour faire en sorte que tu ne la modifies pas, enfin que tu n'arraches pas ses biens.
D'accord, parce qu'en fait, tu peux carrément aller sur l'île d'un autre, de quelqu'un que tu as ajouté un ami et lui défoncer son île. Quoi.
C'est ça, en fait, tu peux pas défoncer, mais tu peux prendre ses ressources.
Ouais, prendre ses ressources. Quoi.
Tu peux prendre ses fleurs et ses fruits, quoi. Pas content,
okay.
sauf s'il accepte de faire. Mais du coup, oui, tu peux aller chez les autres pour acheter des vêtements, des objets, pour prendre des roses. Tu as tout un système où tu peux mélanger des fleurs pour avoir de nouvelles couleurs d'hybridation des fleurs. C'est quand même, en fait, c'est plein de petites mécaniques que tu as envie de faire, mais tu as envie de les faire. Du coup, ça te prend du temps. Et tous les jours, tu fais des petites actions, des petites actions, des petites actions. Mais c'est incroyable.
Bah ça a l'air assez particulier et je suis assez fasciné par l'aspect communautaire du coup qui est développé par le jeu. Hein.
Bah d'ailleurs, c'est la communauté qui te blinde de contenu aussi. Parce que comme j'ai fait un article récemment qui marche très bien, c'est par exemple les chemins et les routes partagées par la communauté. De base, le jeu au début, tu dois limite attendre 50 ou 60 heures pour pouvoir te faire un chemin décent. Parce que sinon, tu dois créer le motif toi-même, tu dois te spécialiser et tout. Et c'est là où j'ai envie de dire que Nintendo a un peu l'air préhistorique dans ses mécaniques. C'est que dans la prise en main, tu préférerais beaucoup avoir un Sims plutôt qu'un Animal Crossing.
C'est, ok. Ouais, c'est vraiment intéressant.
Bah, si tu veux te faire une route, tu dois mettre au sol motif par motif.
Ouais, ok.
Si
oui.
Tu veux rattraper l'est et l'ouest, motif par motif, sachant que des fois, sans faire exprès, tu vas effacer l'ancien motif, tu dois recommencer. Parce que bien sûr, c'est le même bouton pour mettre et pour enlever. Ils font pas les choses à moitié. Du coup, ton chemin et tu mets 17 ans. Quoi.
Comment c'est en termes de mise de prise en main?
La prise en main, elle est facile.
Après, t'as facile, ouais.
Boutons, ouais, elle est facile. Parce que tu avances ton perso, tu parles au PNJ. T'as des petits problèmes de visée des fois, mais c'est rien de grave. Quoi.
Ok, d'accord. Et ouais, en termes de ce que j'avais vu vite fait. Il y a pas de souci. Non, parce que j'avais vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient un peu de l'ergonomie du jeu, par contre.
Ouais, c'est déjà, comme je t'ai dit, le jeu il te met devant 17 obstacles.
Ouais.
Comme disaient d'autres, en fait, c'est le nouveau public il reproche à Animal Crossing d'être Animal Crossing parce que nous on découvre les mécaniques merde.
Ok, qui ont toujours été là dans la série en fait.
Oui, c'est ça. Et en gros, l'inventaire, si tu veux, comme je t'ai dit, tu veux avoir 70 objets, tu veux empiler des objets. Par exemple, tu veux mettre 10 poissons, 10 anchois dans la même poche, bah, tu peux pas. Une anchois, ça va prendre une place. Du coup, tu as capturé 10 anchois sur un sac qui peut avoir 40 objets maximum. Bah, tu as déjà tes 10 anchois. Tu as déjà tes outils qui te prennent une place chacune. Il doit bien y avoir une dizaine à force.
Oui, ok.
Du coup, tu es très vite limité. Tu as un système où tu peux visiter aussi des îles aléatoires si tu veux prendre un maximum de ressources pour décorer ton île, pour les revendre derrière. Faire des choix, quoi. Tu as des choix d'interface un peu merdiques et des choix d'inventaire. En fait, c'est vraiment un jeu. En fait, on te donne rien, comme on dit, quoi. Les autres, ils ont gardé leur mécanique toute simple à faire, peut-être. Ou peut-être qu'ils veulent simplement que tu ailles doucement pour te prendre de ton temps, quoi.
Ouais, c'est possible parce qu'après j'avais vu qu'il y avait aussi un système de temps réel en quelque sorte.
Ouais, bah c'est ça, tout est en temps réel. En fait, tu arrives, tu connectes ta partie. Ta Marie, la grande, grande PNJ la plus connue d'Animal Crossing qui t'accueille avec un petit message. Bonjour, nous sommes le 17 février. Donc, j'ai rien à vous dire, mais hier, j'ai fait une recette miraculeuse de ratatouille. Okay. Ah bon, désolé si je vous ennuie. Mais c'est vraiment des trucs comme ça. Hein.
Ok, donc du coup, ouais, j'ai vu qu'il y avait un système de saison un peu aussi.
C'est du coup, quand même. Ça, bah, ça c'est ce qui est bien. Ouais. C'est, enfin, ce qui est bien. T'as des mises à jour et par exemple pour Pâques tout le monde était frustré parce qu'ils t'ont fait pêcher, capturer différents œufs, peut-être des œufs terrestres que tu dois piocher pour prendre, d'autres que tu dois pêcher, d'autres que tu dois creuser, d'autres que tu dois avoir dans les airs. Et au final, pour nous faire des décorations un peu moisies et nous donner juste la PNJ qui a organisé la fête de Pâques le 12 avril, elle te donne une récompense vraiment décevante quoi. En fait,
frustrant, quoi.
Bah ouais, en plus, tu veux farmer tes poissons. Déjà que ça te fait chier parce que ça te prend dans ton inventaire. Alors, tu pêches, et des fois, tu pêchais des œufs. Souvent, tu pêchais des œufs.
Ouais, t'as pas moyen de désactiver l'événement pour.
Non, le pire, c'est que tu peux même pas choisir si tu jettes. Tu pêches ton œuf il va automatiquement dans ton inventaire.
Ouais, d'accord, tu peux pas essayer de le remettre à l'eau.
Non. Pour l'enlever de ton, si t'as de la place, tu peux pas. Pour l'enlever de ton inventaire, tu dois quitter du coup ta session de pêche, activer l'inventaire, aller mettre en V.
Ah ouais, fastidieux quoi.
Ah ouais, du coup.
Fastidieux pour pas grand chose.
Du coup, tu t'y habitues. En gros, tu acceptes ou tu quittes quoi. Mais c'est compliqué. Mais je voudrais.
Ouais, c'est beaucoup
sur l'aspect communautaire tout à l'heure. Mm-hmm. C'est un truc important. C'est vraiment un contenu communautaire. C'est tout le monde fait des vêtements. Tout le monde peut faire son propre vêtement. Flavien, il a fait la casquette Travel Game, c'était sympa. Bah, j'ai vu aussi des tenues de Aerith, par exemple, de Final Fantasy.
Ok, ouais.
Des kimonos, des trucs de.
Ouais, bah, j'ai vu que Soren du site avait fait Geralt de The Witcher aussi.
Exactement, il a fait Geralt, il a même fait un costume de la CGT, s'il te plaît, la tenue de la CGT. Et ça a pas mal buzzé. Mais du coup, tout le monde peut faire ses propres créations ou un hommage à d'autres créations, quoi.
Ouais, puis j'ai vu que ça a l'air assez détaillé, entre guillemets, quoi. Même si ça reste un univers, un style graphique un peu enfantin. Enfin, vraiment, quand il m'a dit qu'il avait fait Geralt, ouais, j'ai vraiment vu Geralt. C'est mignon, mais tu reconnais.
Ouais, il avait une belle gueule, quoi. Du coup, oui, il te met quand même des outils communautaires, des outils de création sympas. Et le problème, c'est que ça te prend deux fois plus de temps que ça ne devrait, quoi. Du coup, Animal Crossing, c'est. Mais bon, t'as envie d'y rester parce que tout le monde y est et qu'on peut partager des moments avec l'autre. Tu vas sur son île, tu fais des conneries, en plus des conneries minimales quoi. C'est tu prends tout et n'importe quoi, tu prends des photos juste pour le fun, mais tu laisses des petits messages. C'est une aventure de kawaii.
Ouais bah clairement ça a l'air totalement ça. Et qu'est-ce que ça laisse entendre que le jeu aura un suivi par les développeurs, je pense.
Ouais ouais. Bah Animal Crossing en fait ça suit sur les années quoi. C'est le jeu il y en a pour 5 ans minimum. C'est qu'ils vont faire à chaque saison, chaque période. Comme tu es sur le rythme journalier, le rythme en temps réel, bah, ça leur donne le temps de le faire. Quoi. Là, on est en avril. La prochaine mise à jour, ça sera sûrement de l'été. Du coup, on sait pas. Ce qui est quand même pas mal, c'est aussi que tu as l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et tu as un système de collecte d'insectes et de poissons. Et l'hémisphère nord, ils ont des variétés que l'hémisphère sud n'a pas. Et tu dois
attendre
3 mois avant de les avoir. Ou te trouver un pote néo-zélandais quoi.
D'accord, ah, vraiment par rapport à les hémisphères, les vrais hémisphères quoi. Enfin, vraiment ouais, géographique. Ah oui d'accord.
À part si au tout début de l'aventure.
Oui t'as cru.
Je suis des hémisphères sud. Il te dit d'accord. T'es sûr que t'es des hémisphères sud? Oui.
Ok. Est-ce que tu peux par exemple gruger en te faisant deux comptes?
Non tu peux pas.
Un compte hémisphère. Ok.
Non tu peux pas parce que là-dessus d'ailleurs la communauté a pas mal râlé dessus. T'as une île par Nintendo Switch. Du coup si tu veux faire une deuxième île. Une deuxième aventure, tu dois t'acheter une nouvelle Nintendo Switch.
Ah ok, bah système Pokémon quoi.
Ouais, enfin Pokémon, tu peux effacer ta partie et recommencer.
Ah oui, ok, oui, tu peux. Ah oui, tu peux. Ah, tu peux pas faire ça dans.
Ça va assez vite. Là, je sais pas si tu peux pas faire, mais j'ai vu quelqu'un qui a essayé de le faire.
Ok.
Il a pas réussi. Sur Pokémon, tu peux très bien commencer une nouvelle partie en faisant un autre profil.
Ah ok, d'accord. Alors moi, c'était par rapport. Quand je utilisais Pokémon, c'était peut-être les anciennes versions. Je suis bloqué,
ah oui, mais c'est Game Boy. Oh.
Ouais, je suis bloqué à Ruby Sapphire, tu vois. À l'époque,
ah ouais,
c'était
bah
ça.
Oui. Bah, Nintendo,
ok, donc tu peux Nintendo faire d'autres profils sur ta Switch et du coup faire de nouvelles.
Sur Pokémon, pas sur Animal
Crossing. Oui, sur Pokémon, pas sur Animal Crossing. Ouais. Ok. Ouais, donc moyen de la part de Nintendo. Quoi.
Ouais, du coup, là-dessus, ils ont pensé pépette, ou soit ils ont pensé pépette, soit ils ont aussi pensé on n'a pas envie que vous grugiez.
Oui, que vous grugiez.
Ouais. Ils te forcent à garder un rythme, parce que tu peux très bien faire notre profil et envoyer ce que tu as trouvé à l'autre pour qu'il aille plus vite. Quoi. Okay. Tes anciens objets, faire recommencer. Je pense qu'ils ont un peu.
Bah, déjà, j'ai vu que tu pouvais aussi modifier la date de ta.
Ouais, ça, c'est.
De ta Switch.
Les Time Traveler. Il y en a, en gros, tu dois. En fait, ce qui est aussi chiant. Il y a beaucoup de choses chiantes, mais c'est fou comme tu les acceptes.
Ah ouais, c'est vraiment. C'est, ouf,
c'est vraiment dingue. C'est, ce qui est chiant, c'est que par exemple, tu vas contracter un crédit chez Tom Nook pour une nouvelle pièce dans ta maison.
Ouais.
Sauf qu'elle sera construite que demain. Du coup, tu as payé tout, mais c'est en temps réel, il faut attendre demain.
Ah ouais, ok.
Il y a plein de trucs comme ça où il faut attendre
si
le
frustrant.
Jour suivant.
Du coup, mais ça crée pas de la frustration, ça, attends.
Bah, moi, ça va. Moi, ça va, j'y vais tout doux. Mais quelqu'un comme Flavien. C'est un bon voyageur dans le temps. Oui.
D'accord, ok, ouais. Donc il passe sa vie à changer la date de sa Switch, quoi.
C'est ça, il change, il y a des trucs en avance. Parce qu'en même temps, la progression dans ta partie, par exemple, ta boutique de vêtements aussi, elle est annoncée un jour, et puis elle vient 48 heures après. Et toi, pendant 2 jours, tu dois dire, je dois attendre 48 heures, quoi. Soit je change les réglages de ma Switch et il y a une petite appréhension sur ça. Tu vas pas avoir des retombées si jamais je traficote. Sinon, tu attends, tu prends ton mal en patience, tu fais autre chose, quoi. Tu collectes, tu te fais des thunes en attendant que ton musée ou ta boutique de vêtements soit là.
Ah, c'est ouf.
Du coup, là-dessus aussi, c'est un choix, mais c'est un peu chiant aussi. Mais ça a toujours été comme ça, Animal Crossing, quoi.
Ok, mais est-ce que c'est pas dommage, du coup, qu'ils profitent pas, qu'ils améliorent pas un peu des choses au fur et à mesure? C'est quand même assez...
Ouais, je pense qu'ils gardent des mécaniques de base. Et je pense peut-être qu'ils s'attendaient pas à un tel succès, du coup, pas de tels défauts mis en avant par les joueurs.
Oui, c'est possible qu'ils pensaient que ça allait rester quelque chose de niche et que c'est devenu
c'est ça. Là, c'est
le phénomène.
Quoi. Bah, clairement, tout le monde, franchement, tout le monde y joue, tout le monde publie des photos.
Ah, moi, tous mes potes, même qui jouent pas aux jeux vidéo de base,
ils sont sur Animal Crossing.
Ils sont sur Animal Crossing, quoi. Donc, ils ont une Switch comme ça, mais tu sais, pour jouer entre amis ou quoi, ils ont Animal Crossing, ils jouent à Animal Crossing. Ils m'envoient des messages pour que je joue à Animal Crossing.
achète.
Ouais, j'ai une Switch, ouais, je pourrais. Hein,
mais attention,
ah, mais y a...
Nintendo, ils baissent pas le prix de leur jeu. Hein.
Ouais, c'est ça.
Zelda, aujourd'hui, il est encore à 46 balles minimum en solde.
Ah oui, non, mais c'est clair, hein, ça, ils baissent pas leur prix. Mais ouais, il y a possible qu'à un moment de besoin de mignonitude, de mignonnerie, de kawaii, je craque.
Hein. Fantasy est arrivé pour toi. Hein,
parce que ouais, voilà, ça, je savais que j'aurais de quoi m'occuper là, en ce mois d'avril, mais après, les autres mois, je dis pas, avec tous les reports, tout ça, je dis pas. Ouais, donc globalement, plutôt conquis, quoi.
Mais ouais, parce que franchement, c'est vraiment dépaysant, quoi. Tu fais ta petite idée, du coup. Moi, j'ai fait un festival des jeux de société, quoi. J'ai mis 2 semaines à faire.
Oui, j'ai vu passer.
40 tables, 4 fois plus de plateaux.
C'est stylé, ça, après. Ouais. Du coup, ça, en fait, c'est un peu la Minecraft, quoi. Après, la limite, c'est ton imagination.
Tu te fais des petites actions et jusqu'à ce que tu aies fini, tu ne veux pas lâcher. Entre-temps, comme c'est très lent, t'as eu d'autres idées d'actions et des trucs à faire, t'as vu d'autres trucs sur internet que tu voudrais faire aussi.
Mais oui.
T'as un cercle infernal et t'en sors jamais, quoi.
Ok, donc bonne expérience.
C'est une très bonne expérience. Étonnamment, malgré tous ses défauts, okay. C'est quand même un truc de fou, quoi. Je sais que ouais, dans 4 mois, je pourrais très bien y rejouer.
Ouais, est-ce que tu penses que le phénomène va pas s'essouffler, du coup?
Je pense pas qu'il s'essouffle tout de suite en tant
pas tout de suite, ouais.
En plus.
Ouais, c'est vrai qu'il a.
Toutes les grosses sorties jeux vidéo ont été repoussées.
C'est reporté, ouais.
Il n'y aura pas The Last of Us tout de suite. Bon, il y aura l'extension Pokémon, mais bon, c'est une extension.
Mais ouais, donc du coup, après,
je pense pas
c'est vrai que là, c'est la période propice, ouais. À jouer Animal Crossing avec ce confinement, donc...
Ah, ça pouvait pas mieux tomber, parce que chacun est chez soi, et chacun, ouais, ouais. Au final, a envie de se voir, et se dire, ah, tiens, on va se
reste en contact Crossing. Par... Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment...
C'est plutôt fou, ouais. Mais franchement, ouais, c'est des paysans, et ça t'occupe. Ça sera
super,
ma conclusion.
Peut-être. Très bien.
J'aime beaucoup.
Très bien, très bien. Bah écoute, ouais, tu m'as presque donné envie d'y jouer, tu vois.
Ah bah tu vois.
Peut-être que je craquerai.
T'as déjà ouvert une autre page. Et...
Ouais, peut-être que je suis déjà en train de commander le jeu, hein, si possible. Ok, bon bah voilà, on a fait nos 2 jeux là de cette période. Final Fantasy VII et Animal Crossing. Donc du coup, on passe vite fait sur 2 autres jeux qui nous ont occupés.
Sur les jeux secondaires. Sur les jeux d'à côté.
Les petits jeux secondaires. Voilà, on va passer un peu moins de temps dessus. Hein, ça va vraiment être un avis rapide.
On va nous commencer par ton ressenti sur Resident Evil.
Yes, Resident Evil. Remake. Donc c'est ça, remake Resident Evil 3.
Encore un remake.
Encore un remake. Ouais, c'était vraiment pour moi, c'était le mois des des remakes. Alors, à la différence que par rapport à Final Fantasy VII, je ne connaissais pas Resident Evil 3. Je suis un très très grand fan de la série. Ouais, je suis un très très grand fervent admirateur de la série. Ouais, j'aime pas le terme de fan, mais c'est un autre débat. Mais ouais, non, Resident Evil 3 est un des seuls épisodes principaux, je crois, que je n'ai pas fait. Si on nommait tous les Outbreak.
C'est drôle parce que moi, personnellement, je connais pas toute la licence.
Et mais le 3, oui.
Le premier Resident Evil que j'ai fait, et je me suis pissé dessus comme jamais, quoi.
Ah, ok.
Sur PlayStation, je m'en rappelle de ne l'avoir jamais fini. Je sortais dehors, je voyais Nemesis qui me poursuivait. Je me ruais sur un bâtiment, je finissais toujours par crever et j'ai abandonné le jeu, quoi.
Ah ouais, non, mais je comprends ce que j'ai quand même petit, j'ai quand même lancé le jeu. Mais ouais, non, première rencontre avec Nemesis devant le commissariat, il me semble. Et ouais, non, c'était trop peur, en fait, cette créature-là qui te poursuivait.
Ah, mais c'était stressant. Stressant de fou, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc je connaissais pas le jeu de base. Donc j'ai pu découvrir ce remake là qui est sorti en début avril là sur PlayStation 4, Xbox et PC, il me semble. Hein. Voilà, donc pour un petit avis rapide, j'ai pas mal aimé. Je le trouve moins réussi que le remake de Resident Evil 2.
Peut-être aussi l'effet de surprise qui est passé.
Peut-être aussi ouais, le fait que c'est vrai que Resident Evil 2 c'était en mode waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon jeu de base, c'est incroyable. Mais c'était le premier remake qu'ils faisaient, comme tu dis. Donc là, c'est un nouveau remake. On s'est habitué, hein, mine de rien, enfin, avec le premier, avec Resident Evil 2. Donc il y a moins l'effet waouh, il est vrai. Surtout que, bah, à la base, c'est vrai que même dans l'histoire de la licence, Resident Evil 3 est sorti peu de temps après Resident Evil 2 et qu'il utilisait pas mal de mêmes ressources graphiques que Resident Evil 2. Donc on repassait par les mêmes lieux. Hein, ça se passe toujours à Raccoon City. Et donc on repassait par le commissariat qui avait déjà été vu dans Resident Evil 2, dans les rues Raccoon City. Donc au final, ils ont mis peu de temps à le développer parce qu'ils avaient justement réutilisé pas mal de lieux emblématiques du jeu précédent.
Ah oui, du coup, tu retrouves pareil le même lieu.
Tu retrouves, ouais. Alors du coup, bah, la particularité quand même, c'était que tu passais un peu plus de temps dans les rues. Vraiment, voilà, pour plus de zombies, plus de moments urbains. Mais ouais, non, après, dans Resident Evil 3, tu repasses par le commissariat. Bon, c'est une séquence qui a été allégée, d'après ce que j'ai compris, par rapport au jeu de base. Mais tu repasses par le commissariat, tu repasses devant le commissariat, tu repasses par le gun shop, le magasin d'armes. Bon, c'est des petites séquences, ça, mais c'est pas les séquences principales. Mais voilà, tu vois que, bien sûr, ça fait un an que le jeu que Resident Evil 2 est sorti, il me semble. Je vous dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un an après, forcément, bah, ils ont utilisé les mêmes ressources graphiques. Hein, même au niveau des zombies, c'est les mêmes. Il n'y a pas de différence si tu revois les mêmes zombies que Resident Evil 2. Mais du coup, bah, l'attente vraiment de ce remake du 3, c'était bah, Nemesis, hein, bien entendu.
Ouais, c'était Nemesis qui devait te faire pisser dessus, quoi.
Voilà, qui en avait traumatisé, du coup, bah, comme tu disais, toi, ton expérience perso, plus d'un à l'époque. Et qui, moi, m'a beaucoup moins traumatisé que Mr. X de Resident Evil 2. En parlant des remakes, du coup.
Ils ont peut-être voulu changer.
Alors ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais Resident Evil 2, le Mr. X, du coup, bah, qui était une version un peu bêta du Nemesis, vous poursuivez dans tout le commissariat. Mais il était vraiment omniprésent, en fait. C'était vraiment une épée de Damoclès que vous aviez au-dessus de la tête, qui pouvait vous tomber dessus à n'importe quel moment. Vous entendiez ses pas vraiment résonner dans le commissariat. Là, Nemesis, alors oui, il vous suit tout au long de l'aventure, parce que c'est le scénario qu'il veut, mais la plupart de ses apparitions sont scriptées.
Ah ouais, dommage.
Et en fait, il apparaît au moment où il doit apparaître. Alors oui, il va vous poursuivre, en fait, si vous voulez, au niveau de la ville, voilà, c'est un petit hub au début de l'aventure, où voilà, vous avez quelques rues, quelques trucs à faire dans les rues, machin, avec 2-3 bâtiments. Mais voilà, au tout début, il apparaît pas. Il apparaît que quand il doit apparaître. Donc si vous refaites le jeu, ben, il apparaîtra bam au même moment, et ça sera la même séquence de jeu où il sera là, en attendant que vous ayez fait les mêmes choses. Il sera pas là de manière omniprésente. Genre, par exemple, voilà, vous devez réactiver le métro, ben, il sera là jusqu'à que vous ayez réactivé le métro, quoi.
Ah oui, je vois.
C'est vraiment un peu dommage à ce niveau-là. Et ouais, ben, je l'ai pas trouvé. Enfin, il m'a pas vraiment impressionné de ouf. Et pourtant, pour vous dire, j'ai fini 3 fois le jeu. En mode normal, en mode...
Tu y es retourné, hein, tu t'es pas dit sur un avis, allez, peut-être que...
Non, j'ai vraiment, voilà, parce que le jeu de base, en fait, le problème, c'est qu'il était extrêmement facile. Alors ok, je connais beaucoup la série, je connais beaucoup les mécaniques, je sais qu'il faut pas tuer tous les zombies, bien machin, plein de choses comme ça, mais vraiment, beaucoup trop facile. Je suis arrivé vraiment au boss final, vous auriez vu, j'étais un Terminator, quoi. Vraiment, j'avais des balles pour toutes mes armes à foison, des soins, c'était assez effarant. Et ouais, non, beaucoup trop facile. Disparition aussi dans ce jeu des rubans encreurs pour sauvegarder, même en mode hard. Donc vous pouvez sauvegarder autant que vous voulez.
Exactement.
Alors ouais, le système de rebrancard, en fait, c'est que vous en trouviez dans les anciens opus, et vous, ça vous permettait de sauvegarder, en fait. C'était des ressources, vos sauvegardes. Donc il fallait faire attention à combien à sauvegarder, à pas faire n'importe quoi avec vos sauvegardes, et à sauvegarder qu'à des moments propices.
Ah, je vois.
Opportun, quoi.
Un petit aspect de gestion pas dégueulasse, quoi.
Ouais, voilà, donc il rajoutait du coup un sentiment de peur, parce que forcément, quand ça faisait 45 minutes que vous n'avez pas sauvegardé parce que vous vouliez économiser des rubans, vous n'aviez pas envie de crever, quoi. Là, tu meurs, tu recommences au checkpoint qu'il y avait 2 minutes avant, quoi.
Ah ouais, donc, du coup, ils ont fait vraiment un jeu accessible, quoi.
Voilà, donc ouais, il y a la blinde de... Donc du coup, il n'y a pas de sensibilité comme ça, il y a aussi du coup l'apparition des checkpoints. Alors, c'était aussi dans le mode normal, il me semble, de Resident Evil 2 du remake, mais au mode hard, au moins, difficultés plus énervées, ils avaient remis ça, les rubans encreurs. Là, ça n'y est pas, les rubans encreurs, jusqu'au mode... Il y a 5 ou 6 modes de difficulté. On est vraiment loin dans le mode difficulté. Mode normal, cauchemar... Enfin, normal, difficile et cauchemar, ça se fait, il n'y a pas de souci. Vous pouvez sauvegarder de manière tranquille. Il y a juste dans le dernier mode de difficulté où il n'y a plus les checkpoints. Voilà.
Ok. Et du coup, en gros, si tu veux être stressé, tu fais jouer en plus dur possible, quoi.
En plus dur, mais voilà, mais le problème c'est qu'il n'est pas débloqué dès le début, donc il faudra d'avoir fait le jeu une fois ou deux fois avant.
Ah ouais, du coup.
En fait, c'est gradué. Quand tu fais le mode normal, tu débloques le mode difficile, après difficile, cauchemar, après enfer.
Et t'as pas forcément envie de refaire.
Après, ça va que le jeu est hyper court. C'est un avantage comme un défaut pour le coup. Parce que voilà, en termes de durée de vie, ça aussi, il faut en parler. C'était fini en 6 heures.
6 heures pour un jeu qui doit coûter 60 balles.
Ouais, c'est ça. La gruge de RE2, c'est le scénario. Le scénario de Claire et le scénario de Léon. Là, il n'y a qu'un seul scénario. Fini du coup en 6 heures. Quand vous le refaites, voilà, vous passez les cinématiques, vous savez ce que vous devez faire, vous finissez en 4. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Après, voilà, moi je l'ai refait parce que je suis très fan de la série. Le gameplay fonctionne. Ça, il n'y a pas à dire. Hein.
Ouais, on va faire le processus inverse pour Final Fantasy XVII. Tu as commencé à énoncer les défauts du jeu.
Oui, on va quand même, oui. C'est vrai que je me suis beaucoup attardé sur les soucis, mais le gameplay est toujours aussi efficace. Hein. On est sur un gameplay TPS, donc du coup caméra à l'épaule. Même exactement pareil que Resident Evil 2, ceux qui l'ont fait. Pas beaucoup de différence, si ce n'est l'ajout d'une esquive, qui vient par contre vraiment dynamiser le gameplay. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. Il me semble qu'elle y était dans le jeu de base, dans Resident Evil 3 de base, il me semble qu'il y avait un système d'esquive aussi. Mais là, vraiment, si vous aimez bien vos esquives, vous pouvez éviter les zombies. Et vraiment, comme un ninja, passer entre les zombies, esquiver les attaques du Nemesis, tout ça, là où dans Resident Evil 2, vous faisiez juste bouffer, quoi. Vous ne pouvez rien faire de particulier. Là, si vous timez bien votre esquive, vous faites une roulade, et après avoir fait la roulade, si vous décidez de tirer, ça fait un espèce de ralenti, une espèce de bullet time, où vous pouvez ajuster bien la tête de l'ennemi pour le tirer dessus.
Oh c'est sympa.
Donc ça, c'est sympa, ouais, ça vient vraiment dynamiser.
De tireur.
Ouais, non, c'est clair, ça vient vraiment dynamiser vraiment le gameplay. Ça rend les combats de boss hyper grisants, hyper dynamiques. Ça, c'est une grosse réussite du jeu, les combats contre les boss et contre le Nemesis, hein, parce que c'est beaucoup lui que vous allez croiser.
Si le jeu il dure 6 heures, t'as combien de boss dans le jeu ?
Écoute, tu dois affronter le Nemesis 3 fois, donc c'est pas non plus énorme. Mais vraiment, là où les combats de boss étaient un peu ratés, parce que je me rappelle d'un combat contre Birkin dans sa première phase de transformation où c'était juste tu tournais en rond et il te poursuivait, dès qu'il y avait une opportunité de tirer, tu tirais, mais vraiment, il n'y avait aucun intérêt en termes de jouabilité, quoi, en termes de jeu. Là, vraiment, il y a ennemi attaque, vous faites des roulades, c'est la Dark Soulsisation du jeu vidéo, si je peux me permettre.
Tu vas peut-être un peu loin.
C'est ça. Bon, j'arrête de m'emballer. Mais sinon, après, ouais, des personnages plutôt cool, même si dans la veine de Resident Evil, hyper caricaturaux.
Dommage.
C'est
dommage parce que Resident Evil ils avaient le poupe depuis le 7.
Oui, avec des personnages un peu plus travaillés, là et du coup tu vois, ils sont restés fidèles en fait au matériau de base et ouais, c'est un jeu purement des 90, quoi.
Ouais, ils auraient peut-être fallu qu'ils s'éloignent et qu'ils prennent plus de risques et qu'ils le modernisent, quoi.
Oui, peut-être parce que le grand méchant avec l'accent russe
c'est un film de série B.
C'est ça, voilà. Après, c'est vrai que Resident Evil s'est jamais caché d'être un peu avec des scénarios et des personnages de série B, mais c'est vrai que ouais, c'est dommage. Après, voilà, je joue pas spécialement Resident Evil pour son scénario, même si j'aime bien l'univers. Je suis pas happé par l'histoire. C'est vraiment les ficelles de gameplay qui me parlent. l'action aussi, parce que c'est un jeu beaucoup plus action que Resident Evil 2. Là, on est plus vraiment sur beaucoup de zombies, beaucoup de munitions, beaucoup tiré dans le tas.
Ouais, du coup, ouais, c'est un défouloir, quoi.
C'est un très beau traitement de défouloir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ouais, ça reste complètement globalement une bonne expérience que je recommanderais peut-être pas au prix fort.
Oh, donc, on va attendre qu'ils soient en promo, quoi.
Ouais, soyez pas pressés, attendez qu'ils soient peut-être un peu en promo. Largement de quoi faire pour ceux qui aiment ce style de jeu. Voilà, avec une rejouabilité qui apporte pas non plus tout de ouf, mais qui a le mérite d'être là. Pas mal de trophées, voilà. Il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi faire pour ceux qui veulent le faire, mais okay. Pas à 70 balles, dans cette classe.
Et c'est sympa sans plus.
Ouais, c'est pas la grosse claque à laquelle je m'attendais. Et pas la grosse claque qui a été Resident Evil 2 Remake. Très déçu par le Nemesis, en fait, au final. Qui ouais. Est là, mais sans être là, quoi. Qui m'a beaucoup moins empressé que l'avait fait Mr. X il y a un an dans le commissariat.
En gros, il y aura un polypass, on redevient quoi, de grandes figures du jeu vidéo, non?
Non, bah non, j'avoue que. Alors, il me semble que dans les souvenirs que j'ai de le base, ouais, vraiment, il était vraiment beaucoup plus présent. À tout moment, il pouvait éclater un mur pour. Bon, c'était scripté aussi, mais c'était l'époque. Mais il pouvait éclater un mur pour venir vous chercher dans le commissariat. Là, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Le commissariat, on y passe beaucoup moins de temps. Tout ça. Et aussi, puisque j'y pense, certaines scènes, certaines séquences de jeu, vraiment des zones qui étaient présentes dans le jeu de base qui n'y sont plus.
Là. Ils ont coupé du bon contenu.
Ils ont coupé dans le gras quelques séquences. Apparemment, il y avait une séquence avec un beffroi et dans le parc de Raccoon. Dans Raccoon City, là, c'est des séquences qui n'y sont plus, en fait.
Ouais, ils ont fini rapido, quoi.
Ouais, c'est ça, il fallait que ça sorte rapidement, j'ai l'impression. Je vois pas pourquoi il fallait que ça sorte rapidement, honnêtement. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres jeux Capcom à mettre dans cette période de sortie. Mais ouais, quand on voit la durée de vie du jeu et quand on sait en plus que des séquences ont été coupées, on a le droit d'un peu de se poser des questions. Enfin, c'est un petit peu, décevant.
Pour la suite, ils ont annoncé de nouveaux jeux, ça leur servira. Ils vont travailler là. Enfin non, ils n'ont pas annoncé, c'est pressant.
Des rumeurs, ouais, des rumeurs de.
Ils annoncent un nouveau remake, le 4 cette fois-ci.
Ouais, alors.
Resident Evil 8, quoi.
C'est ça, donc ouais. Donc, Resident Evil 4 qui est mon épisode préféré, que j'ai fini une vingtaine de fois dans ma vie. Donc je serai nettement plus sévère.
J'allais dire, tu serais hypé par l'annonce.
Alors, je suis pas hypé parce que je trouve que Resident Evil 4 n'a pas vieilli, en fait. Alors oui, ok, tu me disais, c'était le début des caméras à l'épaule. Ok, tu pouvais pas juste te déplacer en tirant, mais je trouve que le gameplay a pas vieilli, en fait. Donc je vois pas l'intérêt de le remaker, si ce n'est vraiment pour pouvoir marcher en tirant et.
Bah peut-être qu'il veut juste le vendre sur PS4, quoi, et PS5.
Ouais, peut-être. Donc à voir. Je suis pas spécialement impatient parce que.
Tu voudrais plus un remaster qu'un remake.
Bah, le remaster, je l'ai déjà, hein. Franchement, dans le cas, je l'ai sur à peu près toutes les consoles, je crois qu'il est sorti, tellement j'ai la d'art. Donc, ouais, j'ai mes remasters avec des graphismes un peu lissés, ça me suffit très bien. Moi, j'ai envie de voir la suite, en fait, je suis plus hypé par les rumeurs sur Resident Evil 8 qu'un remake du 4.
S'il est dans la continuité du 7, ça peut être que du bon, quoi.
Ouais, voilà, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le 7. Ouais. Donc, à la limite, s'ils veulent faire un remake, ils fassent un remake de Code Veronica, je sais que c'est pas un épisode plus connu par le grand public. Bien qu'il soit tout à fait qualitatif, quoi. C'est un très bon jeu.
Je pense pas qu'ils aient intérêt à ressortir s'il n'est pas connu du grand public.
Ouais, c'est ça, c'est pas le plus apprécié, parce qu'il est très apprécié par les fans, mais c'est pas le plus populaire, on va dire.
Il n'a pas un grand public, potentiel quoi. Marketing, quoi.
Non, je pense pas. Pas en dehors de la communauté Resident Evil.
Ok.
Voilà, et juste donc, du coup, pour mon avis sur Resident Evil, je fais juste une aparté sur Resident Evil Resistance. Qui est le mode
multijoueur
qui est fourni avec Resident Evil 3. Donc en fait, c'est assez compliqué de l'expliquer parce que c'est assez particulier comme système de jeu. En fait, c'est un multijoueur asymétrique où vous jouez en 4 contre 1. Donc vous êtes des résistants, donc des personnages voilà, avec le gameplay de Resident Evil 3 de base. Et en fait, une autre personne qui est le mastermind, on appelle, qui en fait, ça se passe dans des labos de test d'Umbrella. Et en fait, ce mastermind prend le contrôle des caméras de la map, de la carte dans laquelle vous jouez. Pour y placer en fait des pièges, des ennemis, des monstres, tout ça, pour vous mettre des bâtons dans les roues aux résistants en fait, pour les empêcher d'arriver à atteindre les objectifs qui sont donnés par la partie. Donc, par exemple, les objectifs, ça va être, je sais pas, activer 3 interrupteurs qui sont dessinés sur la map pour ouvrir une porte, tout ça. Et en fait, voilà, le mastermind prend le contrôle des caméras pour voir du coup où sont les résistants et poser grâce à ses caméras. En fait, il vise après pour poser des zombies, des chiens.
Ok, du coup, c'était kiffant ou pas?
Franchement, j'ai pas kiffé de ouf, pas te mentir. En fait, au début, donc le gameplay résistant, ça passe, c'est le gameplay de Resident Evil 3. Il y a juste l'ajout d'armes au corps à corps, qui est plutôt sympa. Mais si t'es pas coordonné, en fait, si tu joues pas avec tes potes et que t'es pas coordonné, je vois pas comment c'est possible de s'en sortir.
Vraiment, pas trop survivre, quoi.
Ouais, c'est vraiment, ça demande une coordination vraiment assez ouf. Et moi, les quelques parties que j'ai fait en résistant, ouais, j'ai pas réussi à me coordonner avec mes gars et on s'est fait dégommer en fait, quoi.
Bah, du coup, c'est positif s'il faut un bon teamplay, c'est pas juste un défouloir comme d'autres, quoi.
Alors, ouais, bah après, ça va être positif, oui, ça va vous occuper des heures, mais je vois mal jouer au multijoueur de Resident Evil, Resident Evil Resistance, pendant un an ou deux, quoi. Je pense que ça a vite tourné en rond.
Ouais, je pense tu penses qu'il sera abandonné, quoi.
Ah, je pense, je lui donne pas une grande durée de vie. Non. Très clairement. Même moi, j'ai joué 2-3 jours, il m'a lassé. Donc, pourtant, je suis très très fan de Resident Evil, mais là.
Tu retourneras pas dessus, quoi.
Je retournerai pas dessus. Et juste, ouais, du coup, pour le côté mastermind, donc, quand vous êtes tout seul, les quelques parties que j'ai fait, du coup, aussi. Au début, je cherchais à jouer stratégique, à poser les zombies à des objets. Pardon, poser les pièges et les zombies et les monstres à des objets. Endroits un peu stratégiques pour comprendre que ça marchait pas. Et en fait, si vous voulez, pour poser les ennemis, c'est un système de cartes. En fait, c'est des cartes que vous tirez, vous avez un deck. Et en fait, au début, vous choisissez un personnage parmi les grands méchants de la série, en gros. Et ça varie le deck que vous allez avoir, le deck de cartes. Et en fait, vous tirez des cartes pour poser des ennemis après, poser des ennemis, des pièges, tout ce que vous voulez, quoi, tout ce qui est dispo. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'au final, vous pouviez spammer les cartes et spammer, du coup, tirer plein de cartes, les poser vite et retirer de nouvelles cartes pour reposer encore des ennemis, en fait, voilà, ça suffit, quoi. Ça suffit, vous tirez des cartes, vous posez les ennemis un peu partout sur la map, vous en posez plein, et les résistants ne vont pas y arriver.
C'est pour ça que tu n'y arrivais peut-être pas, quoi. Les autres, ils ont aussi compris.
Peut-être aussi qu'ils ont compris, hein. Ouais, c'est vrai que moi, en plus, tu peux faire popper des ennemis juste à côté des résistants. Donc, s'ils sont regroupés à un endroit, qu'ils sont bloqués par quelques zombies et que toi tu continues à en poser,
tu finis par crever, quoi.
Tu finis par crever, quoi, forcément.
Du coup, c'est mal branlé, donc, c'est mal foutu. Là.
Non, c'est pas, ça justifie pas. Ça va vous occuper quelques temps, enfin quelques jours, allez, quelques heures de jeu, mais je vois mal qui perdurer. Et ça justifie pas non plus les 70 balles, quoi.
Ouais, du coup.
Déception du côté du multi et petite déception un peu plus mesurée du côté de Resident Evil 3. Ça reste un jeu honnête, mais ils auraient pu faire plus. C'est ça en fait qui m'embête. Qu'ils auraient pu faire beaucoup plus. C'était un peu fainéant. Voilà, c'est ma conclusion.
En gros, achetez FF7, achetez pas RE3.
C'est ça, c'est la grosse. Ouais, t'as tout compris.
Ok.
Donc, du coup, toi, c'est One Piece
Pirate Warriors 4.
Warriors 4, c'est ça.
C'est un jeu qui n'était pas forcément très attendu quand il a été annoncé. La licence a été cool au début. C'est en fait, on découvrait un Musou en 2012 dans l'univers One Piece. Pour ceux qui ne savent pas, le Musou, c'est en gros, t'es un personnage et t'en tues des centaines.
Bien résumé.
C'est ça. En général, le genre est connu depuis Koei Tecmo, depuis qu'ils ont fait Dynasty Warriors.
Dynasty Warriors, bien sûr.
A pu tester au moins une fois un Dynasty Warriors dans sa vie.
Mm-hmm.
Et ils ont décidé de le faire au final avec les animes. Ils avaient même fait un Zelda en muscle.
Ouais, il y a eu un gain de popularité, j'ai l'impression, du genre, il y a quelques temps, avec pas mal de séries qui s'y ont mis.
Ça, le problème, c'est que l'équipe de Koei Tecmo, là, c'est Bandai Namco qui l'édite, mais mm-hmm. le studio Omega Force qui gère un peu les Musou depuis cette décennie, ils ont pas fait évoluer les genres. C'est le même gameplay, tu tapes, tu fais des combos, tu appuies rond pour te mettre en mode puissant et pour devenir invincible.
Okay.
Et pour One Piece, c'est toujours pareil. Il faut savoir que j'avais kiffé le premier, que j'avais limé le deuxième jusqu'au point presque de platiner sur PS3.
Ok.
Parti en 2013. Le 3 est sorti peut-être en 2015, du coup ça faisait 5 ans. Le 3, il avait un peu lassé tout le monde parce que c'était à peu près la même chose que le 2 et on s'est dit pourquoi faire le 3 quand on a fait le 2, sachant que One Piece n'a pas forcément très avancé dans l'histoire.
Ouais, bien sûr.
Et là, 5 ans après, ils sont revenus avec One Piece, Pirate Warriors 4. Keisuke Musso, comme ils disent dans le menu. Et depuis le 26 mars, ça fait 3 semaines que j'y suis. Et franchement, c'est moyen, quoi.
C'est moyen ?
Ah, le problème, en fait, c'est qu'il a toute la beauté d'un One Piece dans l'histoire. Il te remémore tous les bons moments.
Ok.
Tous les moments durant lesquels tu as été ému, hein, les fans connaissent.
Alors, du coup, juste, je me permets, on est sur quel arc narratif One Piece ? C'est toute l'histoire ? Ça se passe comment ?
Alors, on commence dès le début. Enfin, on commence pas dès le début. Il y a toute l'histoire qui est racontée.
Ok.
Le début est résumé. On commence vraiment à l'ère crocodile à combattre.
D'accord, ok.
Et d'ailleurs, c'est là où ils vont être forts dans la mise en scène. Dans la mise en scène, c'est qu'ils vont sauter certains arcs pour garder les meilleurs et faire que tout soit dynamique et que tu avances vite dans l'histoire, quoi. Du coup, c'est bien. En général, tu as 5 ou 6 batailles et tu passes à la suite.
D'accord,
donc,
ok.
Bon, tu combats pas Ener, ni Moria, ni Vergo. En gros, ils te font sauter quand même des vilains sympas, mais ils te mènent jusqu'à Big Mom et Kaido. Et ils t'inventent même à la fin une petite fin.
D'accord, ok. Sympa.
Actuellement, on est sur l'arc des Wano. Mm-hmm. En gros, encore contre... en scan, je veux dire, ceux qui sont en scan et même dans l'anime, je pense. Et ils sont encore contre Kaido, chercher comment buter cette grosse machine qui a one-shot Luffy avec sa massue. Et à la fin, ils t'inventent une fin. Ils t'inventent une fin à l'arc et elle est sympa, franchement. Le combat de boss, si les mécaniques de jeu n'étaient pas pétées, il serait vraiment bien.
Ok.
Parce que dans la mise en scène, c'est vraiment sympa, quoi. Mais le problème, voilà, c'est dans le reste. C'est-à-dire que tout ce qui concerne One Piece, le roster, l'histoire, elle est sympa. Sauf que c'est pas eux qui l'ont fait, forcément.
Oui, ok. Donc, tout ce qui était déjà là de base, c'est bien, mais tout ce qu'ils ont fait, eux, c'est pas ouf.
Ouais, c'est ça. Du coup, tu fais « Oh putain, ce moment-là du manga est vraiment bien ». Du coup, tu réapprends à kiffer One Piece.
Ok, bon, ça c'est positif déjà.
Ouais, et dans la prise en main, bah, t'es un peu cool. Les patterns des personnages, ils sont sympas. Chacun a des siens. C'est vraiment une bonne prise en main où tu enchaînes des combos, il y a différents types de personnages, du coup ça va, les personnages sont bien, t'as vraiment du plaisir à les incarner. Sauf les géants comme Kaido et Big Mom, parce que tu vois rien à l'écran. Tu le tapes et tu sais pas en général ce que tu tapes, parce que même
le Bloodlock, il est pété. Ok. Terrible.
Est-ce que t'as une question ?
Ouais, j'allais te demander en fait qui tu peux jouer en fait dans le... Tu te cantonnes au personnage de l'équipage de Luffy.
Tu joues l'équipage de Luffy, mais tu peux jouer aussi l'équipage de Barbe Blanche. Tu peux jouer les quatre empereurs des mers, c'est-à-dire notre fameux Shanks le Roux.
Ouais, ok. Le fameux.
Oui, celui qui donne le chapeau de paille à Luffy.
Bien sûr.
Et qui perd un membre. Mais tu peux aussi jouer Barbe Noire.
Est-ce qu'on peut jouer Mihawk ?
Mihawk, tu peux jouer Mihawk.
Bon, ça va.
Tu peux jouer Mihawk et tu combats et quand il t'enchaîne, par contre, tu dois attendre avant qu'il finisse de t'enchaîner. Oh, ces combos sont vraiment dégueulasses quand tu les subis. Hein.
Et donc, du coup, ça se passe comment en fait ? C'est genre, tu as des missions et à chaque début de mission, tu choisis un perso. Chaque perso a ses missions propres. Comment ça se passe ?
Exactement. Enfin, non, presque exactement. C'est exactement pareil que dans les précédents.
Ok.
C'est-à-dire que tu arrives dans un arc et puis tu choisis quel personnage prendre au début. Bon, tu te contentes au début de l'équipage et après tu vas pouvoir prendre les autres. Mais c'est ça, tu choisis ton perso. T'as quand même un arbre de compétences pour développer le même que tout le monde. C'est-à-dire que c'est le même, ça te demande des médailles que tu vas récolter en combat. Plus tu restes, plus tu tues, plus tu tues des boss, bah, plus tu vas recevoir des médailles qui t'aideront à améliorer ton arbre de compétences.
Ok, ouais.
Si tu finis la mission en 5 minutes et tu rushes sur le boss, t'auras peu de médailles, quoi. Et du coup, oui, en gros, t'es mis dans une map. T'as à peu près, je sais pas t'as combien de maps, mais t'as une map par arc, à peu près. 2 ou 3 parfois, mais t'es mis sur une map et t'as des mini-boss à tuer, des petits généraux qui valent rien. Et t'as des personnages connus qui prennent plus de temps et qui sont plus balèzes.
D'accord, ok.
Et à la fin, t'as Big Mom et Kaido, c'est des géants qui prennent encore plus de temps.
D'accord.
Comme Barbe Blanche. Mais c'est répétitif, l'IA est dégueulasse. C'est des en face, ce sont des meeples, c'est des polos.
Ok, genre... ouais, bah. Après, j'ai l'impression que c'est un peu le genre Musso qui veut ça, non ?
Ouais, bah, c'est ça, c'est Musso, en fait, c'est qu'il évolue pas depuis Dynasty Warriors, quoi.
Ok. Ouais, donc c'est tous les Musso qui ont ces genres de défauts, quoi. C'est pas propre à.
En général, ouais. Après, ça, c'est ce qu'on appelle, ce que certains appellent le Musso facile, quoi. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles. J'en ai vu évoquer Sengoku Basara, je crois, qui demande vraiment plus de, qui est un peu plus exigeant. Mais en général, si t'aimes pas de Musou, si t'aimes pas être dans une map, à taper sur tout ce qui bouge et atteindre une jauge pour activer ton combo et répéter cette action 10 fois, tu joues pas au jeu.
Ouais, d'accord.
Que tu sois fan de One Piece ou non, quoi. Si tu veux te retaper l'anime et si tu veux te retaper l'histoire, bah, tu allumes ta télé, quoi.
Ouais, donc tu conseillerais même pas ça même les fans de One Piece, du coup, pourraient être déçus. Enfin,
ils pourraient être déçus, mais en fait, c'est un bon défaut. Il faut pas en attendre beaucoup, quoi. Si tu sais à quoi t'attendre, si tu idéalises pas trop le jeu, bah, tu y vas comme ça.
Ouais, ça passe. Ok.
Ça passe, c'est passable. C'est un 6, quoi. C'est un 6 chez tout le monde et un 4 chez Gamecult à tous les coups.
Ok, ouais, ouais, donc.
Mais du coup, voilà, la mise en scène. Après, ouais, Léa, si tu veux, t'arrives avec Luffy, tu cours à travers la foule. En fait, dès que la foule te voit, elle t'attaque pas. D'abord, en général, la foule, la centaine de personnes qui est posée là dans le niveau,
okay,
elle lève le bras, comme un pirate.
D'accord. Yeah. Ok. Super.
T'as eu le temps de leur mettre des patates entre-temps. En fait, ils servent juste à remplir la map et ils ont zéro difficulté.
Ouais, il n'y a pas de difficulté dans le jeu.
Et le pire, c'est que la gestion physique est magique, parce que même quand ils vont te taper, mais en fait, ils vont pas te faire reculer ni rien. Du coup, tu as avancé, mais t'as quand même perdu de la vie.
Ah oui, putain, vraiment, on retourne 20 ans en arrière, quoi. Enfin, ouais, 10 ans en arrière.
Visibilité, c'est pas terrible. C'est l'interface, en général, c'est bien fouillis.
Ok.
Ouais, ouais, la gestion physique des dégâts, c'est pas possible des fois.
Ouais, pas grand chose à en retenir, quoi. Enfin,
c'est vrai, c'est. Super. Même si tu veux, quand j'ai fait l'histoire au début, contre Crocodile, il me regardait. En fait, je tapais, il me regardait, et je crois qu'il a fallu que j'attende sa deuxième phase pour qu'il commence à contre-attaquer. Parce qu'il me regarde clairement, quoi. Il me regarde.
Ah, quel enfer. Ok.
Bouclier, ou en gros, tu dois taper sa jauge de bouclier pour qu'il soit vulnérable à tes coups. C'est vraiment du basique. Et je te dis, c'est le grand, ouais, grand problème des Musou.
Ouais.
C'est des jeux qui n'ont pas évolué.
Et comment, ouais, après, ouais, c'est.
Je sais même pas comment ils peuvent faire, mais je sais que le dernier Dynasty Warriors, ils ont essayé de le faire évoluer, mais en méga map de fou.
Ouais.
Il y avait encore trop de défauts. Ils ont voulu faire un peu gestion stratégie, mais. Non, genre Musou, en fait, ça sera toujours pour un public de niche, quoi.
Ouais, c'est public de niche, c'est ce que j'allais dire.
C'est ça, c'est si t'aimes tout défoncer. Bon, là, ils ont rajouté un peu taper avec le jeu en ligne, peut taper avec les autres. T'as ta coopération en ligne, c'est trop mince pour avoir un intérêt, quoi.
Ok.
Mais les fans de One Piece, enfin les fans de Musou, tu peux y aller, quoi. Tu joues tes persos et tu tapes, quoi.
Ouais, tu seras content, quoi. Donc on le recommandera surtout aux fans de One Piece qui n'attendent pas non plus grand chose du jeu, quoi.
C'est ça,
et qui voudront juste revivre l'histoire, quoi, un peu revivre des moments, retrouver leur perso.
C'est ça, et qui sont pas trop exigeants.
Ouais, ok.
Avec le jeu. Ils veulent voir. Bon, par contre, on peut leur dire que j'ai filmé la fin inventée du jeu. Elle est sur notre YouTube s'ils veulent la voir. C'est le seul.
Ok, ça marche.
Bon, ouais, on linkera ça. C'est une séquence de jeu. Hein. C'est que juste des cinématiques. Au moins, les cinématiques étaient sympas aussi. Même les nouvelles.
Ok, bon, bah ça c'est déjà pas mal. Écoute, bon, on va essayer de trouver du positif un peu. Quelque...
Ouais, bah je te dis, One Piece positif. Et après, t'as une bonne prise en main et t'aimes bien taper, genre taper avec Marco. Au moins, les gameplays sont différents selon les personnages.
D'accord, ok.
C'est déjà ça.
Ok, bon, bah voilà pour One Piece Pirate Warriors 4, du coup. Pas une grande réussite, quoi. Pas une grande réussite.
C'est pas une très grande. Il marquera. On n'attendra pas le 5 et il ne sera pas dans les annales.
Bah, j'écoute, je pense que du coup ça conclut le podcast. J'imagine, j'ai l'impression.
Ça conclut le podcast, c'était une bonne petite expérience.
Bonne petite expérience, j'espère quoi, du coup, que ça voilà, vous aura plu, que les sujets niveau logistique et, voilà, et qualité audio, j'espère que ça va passer. Voilà, on est encore au balbutiement aux prémices, c'est ça, donc on va essayer de tout faire pour améliorer ça au fur et à mesure. Et voilà, ça, j'espère que.
Sur vous pour faire des retours. Pour nous dire ce qu'on doit améliorer.
Bien sûr, bien sûr.
Si on est trop long, si on est trop chiant.
C'est ça, au début, on avait prévu un truc un peu court.
Ça fait plus d'une heure qu'on y est.
Ça fait plus d'une heure qu'on y est, donc ce qui, moi, me choque pas trop, parce que j'aime parler de jeux vidéo, donc
ouais,
j'espère que vous aimerez aussi nous écouter, surtout ça le plus important.
Merci à
donc,
vous.
Donc, bah, je vous dis à très bientôt. On n'a pas encore de récurrence au niveau.
Non, date bon,
de sortie ça. Des podcasts. Donc, bah, on vous dit à très bientôt. Pas de date de sortie comme beaucoup de jeux.
Et sachez que mon île est ouverte sur Animal Crossing.
Voilà, c'est ça, son île. Toby One est ouverte. On vous redirige vers les réseaux sociaux de Travel Game, bien entendu. N'hésitez pas à nous suivre partout. Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube. Je pense qu'on a peut-être tout fait. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Portez-vous bien. Bye tout le monde.